petite pause déj un peu studieuse où on va essayer de parler d'IA, de marketing et surtout bah, comment on se fait pas ubériser. Alors c'est un terme un petit peu dur parce que je pense pas qu'on va disparaître comme ça du jour au lendemain, mais il y a quand même des choses qui changent dans le métier de marketeur avec l'intelligence artificielle, surtout qui se démocratise un maximum. Alors pour cela, en fait, on a organisé ce webinaire dans le cadre de Numériquissimo, qui est l'annuaire de ceux qui font avancer le web en France. Et donc, j'ai un petit panel d'experts qui est là à partager leur déjeuner ce midi. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite présentation de la team. Alors, les dames d'abord, Céline, je t'en prie.
Très classe, merci, merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Céline de Disséline sur les réseaux sociaux. Avec Philippe qui est présent, donc, on a une agence de marketing digital, consultant, formation et création de contenu. Et on a la spécificité, Philippe et moi, d'être hybride, c'est-à-dire qu'on a une double activité, et notamment l'activité, je suis secrétaire, l'autre activité, je suis secrétaire générale de la Confédération des Arts de la Table.
Merci Céline. Allez Fabien, on fait ça comme ça dans l'ordre de la présentation des slides.
D'accord. Ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Fabien Larard, j'ai plusieurs activités. Donc, j'ai une activité d'éditeur média depuis à peu près 2009. Quelques années après, je me suis mis à éditer toute une galaxie de sites avec des objectifs SEO, donc avec du contenu peut-être un peu moins quali et moins de lignes édito. Et depuis 5-6 ans, j'ai aussi une activité de développement et une spécialisation IA depuis 2-3 ans. Quoi, en fait.
D'accord. Alors, passons maintenant. Je vais revenir donc, à Jean-Baptiste. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur toi ?
Oui. Ben, moi, j'ai 3 casquettes. On les voit à l'écran.
On en voit moins une.
Voilà. Alors, celle-là, elle est rouge. Celle de YouTuber. Alors, sur les réseaux, on m'appelle Janvier. C'est mon premier prénom de Jean-Baptiste. Viette, c'était une petite astuce pour qu'on prononce bien mon nom parce que les gens disent Viette. Donc, mon prénom n'est pas Jean, c'est Jean-Baptiste, mais c'est Janvier sur les réseaux. Donc, je partage sur ma chaîne YouTube tout plein d'outils d'IA pour gagner en créativité, en productivité. C'est vraiment très centré sur les créateurs de contenu. Et donc, comme dit Céline et dit Philippe, moi, je suis également salarié à côté. Donc, chez Orange, data analyst, donc il y a plein de choses intéressantes à faire avec l'IA chez Orange, à analyser des données. Donc, je m'éclate également depuis des années chez Orange, donc sur le portail web Orange qui est fréquenté par plus de 23 millions d'internautes tous les mois. Et puis, à côté de ça, on écrit de temps en temps des livres. Le dernier, c'est celui qui est derrière moi, je crois. Alors, je sais plus comment on fait. Ouais, c'est comme ça, le doigt. Le co-créateur qui t'apprend à créer du contenu.
Il est flou,
ouais. Alors, on le voit à l'écran, c'est mieux. Qui t'apprend à créer du contenu engageant grâce aux IA génératives sur les réseaux sociaux. Et alors, j'avais mis ChatGPT à l'époque dans le sous-titre, mais dedans, on parle beaucoup de Claude. Hein, et j'utilise à mort Claude, voilà.
Ben justement, on va parler tout à l'heure des différents outils que chacun utilise. Et c'est vrai que ben, on était en train de discuter de ça justement en intro et c'est vrai que ça bouge pas. Alors, je t'en prie, Philippe, est-ce que tu peux te présenter également ?
Donc, ben, la première partie a été faite par Céline. Moi, je suis à côté, je travaille pour un éditeur de logiciel qui est spécialisé dans l'organisation d'événements. On s'adresse par exemple, ben, la semaine prochaine, il y a un petit événement qui s'appelle VivaTech. Je pense que certains d'entre vous y seront et vous allez probablement télécharger l'application. Et ben, l'application, elle est développée par InWink. Et je suis directeur marketing d'InWink depuis 4 ans. Avant, j'en étais client. Donc, on va dire que l'événementiel et le digital et l'IT, je connais un petit peu. Et je connais quelques têtes parmi le panel depuis quelques temps aussi, pour les avoir vues. Fabien, je pense que ça doit faire au moins 15 ans, 16 ans, parce qu'on est pas loin avec toi, Fred, aussi. Donc, voilà.
Et d'ailleurs, Fred, on peut peut-être ajouter qu'on est tous les deux aussi membres du collectif La Brigade du Web et ambassadeur VivaTech 2026.
Tout à fait. Et pour prolonger les anecdotes, on se connaît bien aussi avec Fabien. Il était venu nous voir chez Orange à un moment donné.
Quand j'étais encore salarié, dans une vie antérieure, j'ai travaillé pour Orange. Donc, on s'est croisé à cette occasion-là.
Le monde est petit. Alors justement, là, on va parler de monde et de monde qui évolue. Là, je vous ai mis quelques petites stats qui sont tirées d'une enquête assez récente d'HubSpot. Il disait que 80% des marketeurs utilisent l'IA, 75% utilisent pour la production média, comme toi Jean-Baptiste, comme moi, comme tout le monde. On voit que 75% des marketeurs utilisent au moins 5 canaux, donc c'est vraiment l'inflation. Et 41% disent que la priorité actuelle consiste à mettre à jour les stratégies SEO. Bon, on verra si c'est toujours d'actualité d'ailleurs. Pour faire face aux évolutions de la recherche. Et pourtant, donc là, on a des chiffres qui sont plutôt positifs. On se dit, waouh, c'est génial. Et en même temps, on voit que 52% des marketeurs, 1 sur 2, estiment que l'IA facilite tellement la création de contenu qu'elle devient moins efficace. Donc, on produit du contenu, blablabla, des vidéos, des posts, etc., etc., des articles de blog, et raf, ça fait un flop. Deuxième chiffre, 53% des marketeurs peinent à différencier leur contenu dans un marché saturé par l'IA. C'est vrai qu'avec les capacités de copywriting et de création de contenu, bah on l'a vu sur d'autres réseaux comme LinkedIn, etc., c'est la saturation totale, avec en plus des contenus comme de bonne qualité, de bonne facture. Et tu l'as dit, c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de gagner en visibilité? On voit qu'il y a 77% des gens qui font appel au marketing d'influence pour essayer de sortir du lot. Donc, on a à la fois un portrait en disant « Waouh, c'est génial, l'IA révolutionne notre métier, on s'y adapte », puis en même temps, c'est « Waouh, l'IA, ça change notre métier, puis ça donne moins de résultats ». Donc, moi, j'aime bien mettre cette citation de Blaise Pascal parce qu'elle date de tellement longtemps, mais elle reste encore plus vraie maintenant. C'est-à-dire, je vous ai écrit une longue lettre parce que je n'ai pas eu le temps d'en écrire une courte. Bah, je pense que ça s'applique totalement à ce qu'on a maintenant avec cette course à l'attention ou l'infocalypse, comme le dit Fabrice Rossard. Est-ce qu'on arrive vers une fin de la valeur de la connaissance? Est-ce qu'on arrive vers une fin de la création de contenu? Qu'est-ce que ça change dans le métier de marketeur? Toi, Jean-Baptiste, c'est ta passion, ta seconde vie de super-héros du web le soir. Fabien, c'était 100% de ton activité il y a encore quelques années, la création de contenu, la gestion de plus de 200 sites web. Et bon, bien sûr, Céline et Philippe, c'est aussi partie de votre quotidien.
Ouais.
Et qu'est-ce que ça change en fait? Qu'est-ce que ça change dans votre métier? Comment vous avez réalisé? Et qu'est-ce que vous avez changé avec l'IA? Donc là, c'est cette première question. Alors, je pense que Fabien, toi, tu es en première ligne.
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire et qu'est-ce que ça a changé, cette IA, quoi?
Alors, en fait, justement, quand j'étais chez Orange, c'est ça qui a déclenché, on va dire, cette envie d'écrire. J'ai lancé mon premier site historique. J'ai regardé hier, il a plus de 15 ans, en fait, hein, maintenant. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui ont changé récemment. Et les problèmes, moi, que je rencontre, ou en tout cas, ce que je peux constater, est quelque chose de global. On va dire, pour l'activité média historique, on va dire, à une époque, on pouvait avoir une vraie source de trafic quand on était un site de taille modeste ou moyenne. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible si on n'a pas atteint la taille d'un vrai média au sens, je sais pas moi, grand journal, Le Monde, etc. Enfin, en tout cas, des médias qui font 2, 3, 4, 5, 10 millions de pages vues mensuelles. Si on n'est pas en fait dans ce groupe-là, on n'est plus visible. Et une des raisons à ça, c'est justement l'IA, non pas en termes de création de contenu, mais parce que tout simplement, en fait, comme on peut créer des contenus alors c'est mon point de vue personnel, mais quand on peut créer des contenus en masse et qui ont l'air d'être de qualité tant qu'on n'est pas rentré dedans, il est très difficile pour les plateformes, donc que ce soit Google, mais c'est vrai aussi pour YouTube, TikTok et compagnie, d'arriver à identifier ce qui est bon de ce qui est pas bon. Donc de déterminer la qualité et qu'est-ce qu'on va faire remonter. Donc pour des réseaux sociaux, il y a des indicateurs assez simples. Et on va dire, les autres intervenants en parleront mieux que moi, on va dire de rétention, les gens regardent jusqu'au bout, ça partage, etc. Pour du contenu, en fait, c'est très difficile d'arriver à faire cette distinction. Et donc, du coup, Google a carrément coupé les vannes assez violemment il y a 2 ans, enfin par palier. Et donc, on n'est plus du tout visible, en tout cas. Moi, je suis plus visible et je pense que c'est aussi ton cas, Fred.
En tout cas, je vois à peu près 75% du trafic qui s'est effondré, quoi. Voilà. À peu près, et on est à peu près dans les mêmes eaux pour à peu près tous les blogueurs, entre guillemets, historiques.
Je vais rebondir à ça. On a aussi morflé il y a 10-15 ans avec Panda.
Je suis d'accord avec toi. Ouais. Après, ça, c'était, j'ai envie de dire, peut-être des problèmes de non-qualité, mais là, même quand on fait de la qualité, on saute, et les exemples sont très nombreux, je parle pas forcément de moi, mais de gens qui produisent en qualité des choses qui sont exclusives, et pour autant qui passent au-dessous des radars, qui sont plus visibles. Donc ça, c'est un premier problème. Et après, pour mon autre activité, qui est une activité SEO, qui est un peu plus, on va dire, un peu moins qualitative, dans le sens où l'objectif, c'est surtout de manipuler en fait les résultats Google, hein, donc quelque part on fait pas des choses qui sont hyper propres, en tout cas qui sont pas aussi qualitatives, bah, le nombre de compétiteurs avec l'IA a augmenté de façon exponentielle. Enfin, on a peut-être 2 ou 3 ou 4 fois plus de sites qui sont présents sur les plateformes de vente de liens, donc qui est finalement un des canaux principaux. Les gens qui font on va dire de l'affiliation, c'est-à-dire qui essayent de générer des revenus par la mise en avant de produits avec des comparatifs, se sont fait dézinguer. Donc du coup, là aussi, c'est très très difficile. Les acteurs qui restent, en fait, qui sont encore vivants, sont des acteurs qui sont passés à un mode industriel, avec de la data, avec de la publication automatique, avec tout un tas d'outils qu'ils ont pris à bras le corps justement pour faire de l'IA, enfin en utilisant l'IA. Mais qui ne laisse plus la place en fait à des artisans qui essaient de faire les choses de façon un petit peu plus qualitative. Donc voilà. Donc en conclusion en fait c'est un peu compliqué si on reste sur les anciennes méthodes on va dire de façon un peu synthétique. Je sais pas si on passe directement aux suggestions, mais je pense que il faut nécessairement, si on veut continuer sur l'un de ces deux l'une de ces deux activités, changer sa façon de faire, voire même changer complètement le principe même de ce qu'on fait, soit en utilisant les outils pour augmenter la volumétrie, mais ça apporte pas mal de problèmes et de questions, soit en basculant sur d'autres activités. Je vous partage une info que vous connaissez peut-être, mais qui est, je trouve, très intéressante. Des sites comme Le Monde vont générer jusqu'à 60 ou 70% de leur trafic, donc qui est leur source principale de revenus, sur de la visibilité sur Google Discover. Donc, Google Discover, c'est le petit flux qui apparaît sur mobile quand on est sur Chrome.
Et on peut en profiter quand on n'est pas une marque forte comme Le Monde de Google. Alors, Discover.
On peut en profiter. En fait, l'algo Discover ressemble beaucoup en fait à l'algo de TikTok. Il est très très inspiré de l'algo de TikTok, avec plein de métriques qui sont basées sur les comportements utilisateurs, je ne sais même pas combien il y a de paramètres, mais d'ailleurs, je sais pas, 50, 60, 90 métriques sur les utilisateurs qui sont utilisés pour essayer de les cibler. Et on va dire, si on est, soit on remonte dessus parce qu'on a été ciblé et on remplit un certain nombre de critères, donc là, c'est la fête et on ne sait même pas pourquoi on est apparu, mais on peut disparaître aussi vite parce que justement, il y a des tonnes de critères.
Et tu n'as pas de lien avec Google News ? Il n'y a pas besoin d'être référencé.
Alors, non, il n'y a pas de lien. Alors, le fait d'être dans Google News peut aider, mais... Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que 70% du trafic des survivants, c'est quand même un truc monstrueux. On parle de dizaines de millions de pages vues. Néanmoins, c'est un métier totalement différent. Parce que le principe de Google Discover, un peu comme TikTok, c'est d'essayer d'accrocher les gens. Alors, au début, les gens ont fait beaucoup de clickbait, donc avec des titres un peu... des trucs chocs, etc. Jusqu'à il y a peut-être un an, ça a fonctionné encore. Et là, en fait, il faut finalement être capable d'arriver à rentrer dans l'ensemble des, 90 critères. C'est extrêmement compliqué. Les gens qui sont à fond là-dessus, j'en discutais la semaine dernière avec des professionnels qui sont là-dessus, certains faisaient des dizaines de millions d'impressions par mois, et là, depuis quelques semaines, n'arrivent plus du tout à performer. Donc, c'est un nouveau métier, et c'est un nouveau métier qui est compliqué.
Voilà. Ouais, mais c'est vrai que, comme tu disais, Jean-Baptiste, il y a quelques années, il y a 2-3 ans de ça, c'est vrai que tu faisais un peu de publicité avec les régies publicitaires d'affiliation. Tu mettais 4, 5, 6 euros et tu t'arrivais parfois, pas tout le temps, mais parfois tu arrivais à apparaître. Et c'est vrai que Fabien, tu avais utilisé aussi cette petite astuce pour. Tu poussais comme ça un poste qui venait de sortir, tu mettais 3 à 4 euros de publicité.
Et ce qui d'ailleurs en fait, fait partie des éléments qui sont analysés par Google, parce que Google, en fait, entre autres, va prioriser des interactions récentes après la publication d'un poste. Donc, il va mesurer énormément de choses. Et donc, du coup, typiquement, ce que je faisais, c'était un peu, finalement, les choses qui sont devenues indispensables. Si on ne les fait pas aujourd'hui, on ne peut pas remonter sur Discover. En tout cas, ça va être très difficile de remonter naturellement sur Discover. Donc voilà. Alors, est-ce que du coup, je passe directement
En fait, on va peut-être passer sur la partie solution, justement. Alors, c'est vrai que là, c'était une bonne introduction de SEO qui s'effondre un petit peu, même qui se fonde totalement, avec des différentes stratégies. Alors, comment on fait pour s'en sortir? Et c'est vrai que là, moi, je me suis dit, je vais vous mettre mes petites astuces, mes conseils, puis après, on va chacun échanger sur ça. Bien sûr, n'hésitez pas à réagir les uns les autres. Alors, je me dis, depuis que j'ai vécu cet effondrement de trafic, je vous ai mis dans le chat là, la petite analyse SEMrush de mon site, et vous voulez voir un peu l'effondrement que ça a été. C'est ça qui est assez étonnant. Mais par contre, il faut quand même aussi se dire que c'est pas forcément le cas de tout le monde, parce que moi je sais que le site par exemple d'Eloquent, la boîte pour laquelle je travaille, qui est éditeur de logiciels, qui est moins touché par ça. Le trafic, lui, comme c'est un site dédié métier et qui a sa propre génération de trafic avec des événements, des machins et tout ça, est beaucoup moins touché qu'un blogueur ou qu'un éditeur de site comme toi et moi, Fabien, où on était au taquet là-dessus. Voilà. Bref, donc moi, ce que je me dis et ce que je constate, c'est que j'essaye de m'approprier une micro-thématique. C'est-à-dire qu'au début, c'était conseil marketing, le marketing. Ensuite, c'était conseil marketing, le marketing B2B. Maintenant, c'est bon, expérience client, CRM, gros hacking. Et encore, j'ai trop de cordes à mon arc. Donc, moi, je me dis que j'essaye d'aller plus en focus sur une niche et me dire, voilà, je vais être le top of mind, je vais être l'expert qu'on dit, tiens, tu penses à quel truc pour l'expérience client et le CRM?
Et c'est pas trop niche, justement, parce que si tu dis marketing B2B, tu vas être moins couvrir moins de personnes, non? Je sais pas.
Le problème, c'est ça, c'est que des fois, il y a des personnes qui me disent, mais Fred, qu'est-ce que tu fais exactement?
Ouais,
parce que d'un côté, je parle de CRM, ensuite, tu parles d'expérience client, parce que l'éloquence, c'est sur la domaine expérience client. Avec Numericissimo, tu parles bien sûr des acteurs du web, et les gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais comme presta? Et ça mélange le truc. Quand je fais des publications LinkedIn, toi, d'un côté, tu as l'expérience client et ensuite, paf, ça vient sur le gros hacking qui sont des sujets différents. Donc, je pense qu'il faut plutôt se spécialiser. Toi, Jean-Baptiste, c'est vraiment la partie IA, création, tous influenceurs.
Oui, mais c'est pas niche, l'IA, pour les créateurs de contenu. C'est assez massif, tu vois. Et à chaque fois, hier, il y avait Claude 5 Fable, il y a toujours un sujet très populaire et c'est facile de surfer là-dessus. Et alors, je me dis, c'est une réflexion sur le marketing B2B. Waouh, bon courage, non, pour surfer sur une tendance. Enfin,
je te rejoins. Ah, vas-y, Céline, je t'en prie.
Excuse-moi, Fred. Hein. À l'inverse, si tu es dans le B2C et B2B, si je ne trouve pas, par exemple, Frédéric en référence et que c'est brouillon et qu'il n'a pas signalé précisément, et là, c'est que de la com, hein, c'est que de la stratégie de communication, finalement, et que finalement, je me dis, Fred, je ne sais pas ce qu'il fait, s'il ne s'est pas niché un temps soit peu. En fait, est-ce qu'on va vraiment aller chercher Frédéric, quoi? On a le même problème aussi de notre côté. Regarde, côté Confédération, donc les gens, tu me l'as dit tout à l'heure en introduction avant qu'on se connecte, Janvier, c'est que tu ne savais pas que je venais du secteur de la table. Et en fait, je communique quand même là-dessus. Et notre expertise, et surtout la mienne, c'est les retailers et l'industrie, on va dire, française. Tu vois, et je comprends, Frédéric, ton positionnement et le fait d'avoir essayé de recentrer parce que tu étais assez large. Par rapport à une période aussi, quand tu as commencé, où tu pouvais te permettre de l'être. Et là, en fait, la concurrence étant qu'on est obligé forcément de se nicher un peu quand même.
C'est aussi la tendance sur LinkedIn actuellement, où en gros, ils préfèrent qu'on se polarise sur certains sujets et pas qu'on fasse des grands écarts au niveau de sujets pour justement administrer le poste ou les communications de manière un peu plus centralisée en tout cas. Et c'est LinkedIn, mais ce n'est pas le seul, en fait.
Non. Et je pense même que ça peut être un très bon exercice. Si on demande à tout le monde de commenter, est-ce qu'ils savent vraiment de nous quatre ce que nous faisons?
Ah oui, bien
je
ça.
Je suis sûre que c'est eux qui peuvent répondre plus que nous, en fait. Parce que c'est eux les consommateurs.
Allez, on demande dans le chat, alors.
Allez, je vous envoie la balance.
On va changer la baseline après la conf. Notre baseline à chacun.
Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et en même temps, ce que tu dis, Jean-Baptiste, c'est très vrai parce que moi, une partie de mes vidéos qui fonctionnent le mieux sur YouTube, soit c'est les top actus en disant tiens, la dernière vidéo sur Grok, sur faire ceci, etc. Oui. Sur de l'IA, c'est du sujet vraiment en grande masse. Soit c'est des vidéos intemporelles comme comment gérer un client mécontent. Et entre les deux, c'est pas simple d'être présent. Voilà. Deuxième chose, comme je disais, être dans le top of mind. Quand je pense à quelqu'un, c'est lui. Je pense en gros hacking, c'est machin. Et là, moi, je pense que le relationnel a vraiment sa clé à jouer. Tu vois, ce matin, j'ai passé une demi-heure à répondre à tous les messages que j'avais en retard sur LinkedIn, parce que grâce à mon assistante qui est à Madagascar, avec qui je sous-traite une partie de mon activité, eh ben, elle souhaite les anniversaires de tous mes contacts LinkedIn tous les jours, quasiment 30 000. Et c'est vrai que ça permet de créer du lien avec des gens pour pas juste leur envoyer de la promo tout le temps ou du webinaire tout le temps. Et ça permet de renouer des conversations avec des gens. Donc, je pense que cet aspect lien, rester dans l'esprit, c'est important. Et rester dans l'esprit, c'est aussi événementialiser, parce que je pense que c'est lié à la maxime tout à l'heure de Blaise Pascal, c'est événementialiser pour avoir l'attention des personnes. Pourquoi je donnerais ici une heure de mon temps avec vous ce midi? Parce que je sais que je vais apporter de la valeur, parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, on est quatre personnes qui ont de la valeur. Et le dernier point, faire appel à des pros, créer du contenu, ça devient vraiment quelque chose de compliqué. Et je le vois moi avec Eloquent, même si on crée du contenu, ça ne sera jamais du contenu qui va cartonner, comme en fait on peut le voir sur les réseaux sociaux, parce que c'est du contenu un peu corporate, un petit peu niché, etc. Et je vois de plus en plus qu'il y a justement des experts. Alors là, j'ai mis la brigade Oubem, où tu es dedans, ma chère Céline, troisième position, qui est une brigade d'influenceurs sur le B2B. Mais par exemple, dans mon domaine, à moi, la relation client, l'experte reconnue partout, c'est donc une experte qui a le podcast Le Client, Marine Deck. Il y a aussi Julien, regarde du compte, qui a un podcast qui est en copie ici. Mais on voit bien que ça devient un métier et c'est une qualité. Vous, qu'est-ce que vous en pensez avec ces quatre stratégies?
Moi, je voudrais rebondir sur un truc je pense global. Je pense que d'une part, il faut effectivement se spécialiser, parce que sinon, on ne pourra pas être pertinent sur des sujets génériques, on n'est pas assez gros, entre guillemets. Mais on va dire, il faut, et clairement, le virage de l'IA va l'imposer de façon définitive. Je pense qu'il faut arrêter de viser des métriques de volume. Parce que déjà, on a pu le faire par le passé de façon plus ou moins accidentelle et peut-être pas systématiquement légitime. Mais j'ai lisé un truc sur HubSpot hier, qui a divisé son trafic, enfin dont le trafic a été divisé par 10 ou un truc comme ça, le trafic web. Pour autant, ils n'ont pas moins de clients, ils ont même peut-être plus. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y avait plein de trafic qui était entre guillemets parasite, qui apportait pas de valeur sur des définitions, des choses qui sont pas liées à l'activité pure et dure de HubSpot. Et du coup, ça, ils l'ont perdu. Mais c'est pas très grave, en fait. Ce qui est important, c'est pas de faire du volume, c'est de faire de la qualité en termes de qualification de lecteurs, de consommateurs. C'est-à-dire que si on a une toute petite audience qui est effectivement avec un tout petit volume, mais derrière des gens ultra qualifiés et voire même des prospects chauds et engagés, on a gagné en fait. Et c'est ça qu'il faut viser, mais c'est un travail qui est effectivement un petit peu plus complexe, peut-être différent aussi, en tout cas de mes habitudes à moi. J'espère que vous êtes meilleur que moi là-dessus. Mais on va dire que la problématique elle est différente. Après, il y a le souci de la compétition avec n'importe qui peut appuyer sur un bouton, générer un volume monstrueux. Et donc, du coup, la part de voix, c'est le deuxième problème, en fait. Donc, ça ne veut pas dire que les choses sont simples, mais c'est, à mon sens, de nouvelles hypothèses de travail sur lesquelles on doit avancer.
Ouais. Je te rejoins parce que j'ai fait quelques posts en partenariat avec HubSpot là, et j'ai vu un de leurs webinaires et ils ont dit justement qu'ils avaient complètement switché la stratégie du SEO avec le blog pour se baser en fait sur l'omnicanal et en partie les communautés, c'est-à-dire que LinkedIn au travers de leurs employés, de leurs speakers était un canal important. Et quand moi je travaille de temps en temps avec HubSpot, c'est vrai qu'ils ont un travail où ils travaillent en interne avec des influenceurs, avec de l'achat de posts sponsorisés et de la pub. Et c'est vrai qu'ils ont un budget publicitaire qui est quand même assez phénoménal pour amplifier les vues. Et c'est ce que disait aussi Michel Brébion, qui est l'organisateur d'Intelligence Marketing Day. Il me disait, voilà, quand je fais un événement maintenant, je mets quelques centaines d'euros pour payer et avoir plus de visibilité.
Moi, je rajouterais juste par rapport à ces stratégies. Alors, même si on le sous-entend avec Top of Mind, c'est la régularité, c'est le fait de revenir assez régulièrement, parce que ce soit de l'événementialisation ou s'approprier un micro thème, en parler une fois tous les 36, ça ne fait pas, ça va pas prêcher pour ta paroisse. Et pour mon autre casquette justement dans la partie événementielle, nous on voit clairement que ceux qui arrivent à retenir l'attention, mais tout de manière régulière tout au long de l'année, avec une stratégie communautaire, qu'elle soit sur LinkedIn ou ailleurs, clairement ce sont ceux qui arrivent à rester top of mind, arrive à maintenir un nombre de participants et un taux de no-show le plus bas possible. C'est eux qui sont les plus crédibles quand il faut faire appel à des pros. Enfin bref, ça, c'est une machine, mais alors ça ne veut pas dire poster ou faire des choses tous les jours, mais assez régulièrement. Alors ça, c'est plutôt à chacun de trouver sa propre
régularité.
Boussole. mais c'est très, très important.
Ah, mais je te rejoins, je suis passé de... en fait, comment j'ai réussi à exposer sur LinkedIn, c'est que j'ai publié tous les jours. Je me suis fait un challenge il y a 2-3 ans, tous les jours. Maintenant, j'en reviens un peu, j'essaie de faire un peu plus du quali, parce que tu te rends compte que c'est plus compliqué. Mais je dirais aussi que comme tu... Alors, je sais quoi, si c'était Jean-Baptiste ou Fabien qui l'a dit, j'essaye plus de chercher des vues. J'essaye de chercher plutôt du qualifié, même si de temps en temps, ça fait comme plaisir d'avoir un truc qui explose bien. Mais c'est vrai que tu dois faire des choses. Alors justement, Jean-Baptiste, on arrive sur une excellente transition. Toi, tu as pris des nouvelles habitudes.
Ouais. Bah moi, par rapport à ce que tu disais avant et ce que vous disiez, moi, je pense qu'il faut faire moins, mais mieux, et être concentré sur un média. Enfin, en tout cas, moi, je mets tous mes efforts sur YouTube. Et donc, l'idée, c'est de mieux travailler mes vidéos parce que sur YouTube, ce qui compte, c'est l'engagement, la découvrabilité. Alors, Fabien, tu parlais qu'il fallait des sujets un petit peu tape à l'œil, putaclic, on va dire, sur YouTube. Donc, la miniature, c'est vraiment un travail. Je fais même la miniature maintenant avant d'écrire la vidéo. Donc, c'est pour vous dire, parce que si t'es pas découvert, t'es mort. Donc, je crois que quelqu'un a réagi, là, David Fayon, effectivement. J'aurais dû, si vraiment je voulais jouer dans la cour YouTube, j'aurais dû publier hier une vidéo sur Claude Fable 5. Mais donc, j'aurais pas dormi, j'aurais pas été en forme aujourd'hui, quoi.
Ben, tu vois, Ludovic Salen, qui était ouais. À fond sur toutes les actualités IA, et à un moment donné, il était à moitié en burn-out parce que.
Oui, j'ai discuté avec lui. Il m'a dit, fais pas comme moi. Je l'avais interviewé sur ma chaîne. Donc, comme tu disais aussi, inviter des gens, des professionnels, ouais, des gens qui ont un petit peu de valeur à apporter. Mais il faut faire super gaffe sur YouTube, le format, c'est vraiment, faut pas que les gens trouvent ça chiant, se barrent, sinon la vidéo ne sera jamais mise en avant. Et donc moi, l'idée, c'était que j'utilise justement les outils d'IA pour améliorer mes productions, donc, aussi bien sur le narratif, donc Claude comme agent qui va m'écrire mon scénario, qui va aussi me préparer tout ce qui est motion design. Maintenant, comme c'est un agent, il est capable de faire les petits sous-titres qu'on voit en bas, les petites transitions, donc ça, c'est hyper sympa. Même la présentation là que vous voyez, c'est Claude Design qui l'a faite. Donc, j'ai juste à donner un document Word. Donc, mon parti pris, c'est de dire, on va essayer d'améliorer l'emballage, donc la miniature, un peu le côté esthétique de la vidéo. Et puis, d'avoir comme ça un petit peu des punchlines, du dynamisme tout le long et de concentrer à fond sur un réseau, sur YouTube en ce qui me concerne. Et moi, je suis beaucoup moins actif sur LinkedIn. C'est pas là où est mon audience. Donc, c'est pas très grave. J'ai rien à vendre. Donc, c'est pas très grave non plus. Voilà, donc j'ai moins de... Ça me dérange absolument pas de faire un post ou tous les 10 jours ou toutes les semaines sur LinkedIn, aucun souci, surtout s'il flop. Donc voilà, moi je pense que c'est ça le truc. Et améliorer certains trucs qu'on faisait pas forcément. Alors, je sais pas, peut-être pour donner un peu la parole à Céline, je crois que tu as fait très tôt, toi, des sous-titres sur tes vidéos Instagram.
Ouais, dans les premières, ouais.
Voilà, et donc avec l'IA, maintenant, c'est hyper facile. Alors, je vais faire un peu de promo parce qu'on n'en parle pas assez de Mistral, qui a un outil de transcription. Alors, j'en parle assez confortablement. Je suis ambassadeur de Mistral, mais j'ai utilisé un autre outil de transcription qui s'appelle Whisper. Bah, tu pourras peut-être réagir, Fabien. Je sais que tu es à fond un peu dans ces sujets-là, non, dans tout ce qui est génération de texte. Elle est vraiment bien et ça permet d'avoir des sous-titres sans faute d'orthographe. Donc, pour notamment les vidéos YouTube ou les vidéos Insta, ne pas utiliser les trucs automatiques sur LinkedIn, c'est à chaque fois qu'ils te rajoutent des fautes, c'est la merde. Ouais. Et le fait d'avoir les transcripts, ça te permet de faire des articles qu'on va un petit peu retravailler parce qu'il y a toujours des hallucinations, mais voilà, de pouvoir se démultiplier sans trop d'efforts. On en parlait, Fred, sur ma newsletter Substack, tous influenceurs, mais aussi sur LinkedIn. Voilà, donc ma reco, c'est de dire privilégier un réseau social, en l'occurrence pour ma YouTube. Je ne sais pas, dit Céline, toi, c'est peut-être... C'est Insta, je pense, non ?
Eh bien, pas forcément, figure-toi.
Non, ok.
Excuse-moi de manger. Non, je suis sur vraiment deux, donc Insta et LinkedIn. J'ai beaucoup réduit la production sur Insta. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, tu sais, le fait d'être toujours dans les nouveautés. Moi, dès qu'il y avait... Enfin, toi, tu sais très bien, Janvier, parce que tu me suivais beaucoup plus sur Insta. Dès qu'il y avait une nouveauté, mais je pouvais me mettre la rate au courbouillon pour sortir le truc. Oui. Parce que ça m'enthousiasme, j'avoue. des fois, je suis toute excitée. Je dis, oh putain, il y a un truc nouveau qui vient de sortir. Faut que je le montre. Mais je me suis moi-même épuisée. Et parce que tu sais très bien que la fonctionnalité, comme par hasard, tu ne l'as pas. Tu fais des tests. Et moi, j'aime bien tester avant pour pouvoir bien l'expliquer aux gens et surtout leur expliquer à quoi ça va leur servir dans leur activité. Pas juste, ça va être une nouveauté parce qu'après, derrière, bah, ils ne l'utilisent pas. Et s'ils ne voient pas l'intérêt, donc c'était tout, enfin toute la mécanique que je m'étais mise. Et là, du coup, je lève le pied, je me mets moins la rate pour
J'adorais, moi, terrible, c'était story, hyper travaillé. Franchement, tu vois, on parlait de qualitatif, tu l'avais avant l'IA. Mais justement, pour rebondir, est-ce que ça t'aide maintenant, l'IA, à améliorer un peu tes formats qui étaient déjà très bien? Est-ce que tu arrives à gagner du temps sur le...
Je gagne du temps sur certaines prods, mais j'aime bien garder ce côté. J'ai remarqué à certains moments, quand j'ai voulu trop l'utiliser, vois-tu, je manquais de spontanéité. Ça se sentait et je détestais ce que je faisais parce que, justement, il y avait trop ce cadrage de l'IA. C'était trop scripté. Okay. Voilà. Par contre, à certains moments, quand je n'arrive pas à trouver mes mots et que j'essaye de faire plus court parce que sinon c'est trop long, bah là, ça m'aide beaucoup. Donc, je l'utilise avec parcimonie pour certaines choses. Je crée encore certaines de mes publications de A à Z, clairement. Mais parce que j'ai envie de garder ce truc et parce que je veux que ça soit vraiment l'impression. En fait, c'est le plus beau compliment qu'on m'avait fait une fois et bien avant l'IA. C'est qu'une personne qui m'avait vu en vrai m'a dit « Mais t'es la même que sur les réseaux. » Et ça, c'est la chose la plus importante pour moi. Parce que les blagues que je fais, ce que je suis, je veux qu'en vrai, ça soit la même chose. Donc, les gens qui me connaissent, quand ils me voient en vrai, ils savent.
Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, Céline, et de vous partager, moi, une méthode que j'essaye de mettre en place. En fait, si on demande à l'IA de faire des trucs, très souvent, effectivement, comme tu le décris, c'est assez scripté, c'est très rigide. Des fois, ça part même dans des directions qui ne nous plaisent pas. Comme on a un peu la flemme des fois de tout relire, bon, bah, le résultat n'est pas satisfaisant. Moi, un truc que je fais maintenant, c'est que moi, je fais surtout de la création de contenu écrit. Je vais poser des idées en espèce de brouillon un peu crado. D'une part, et d'autre part, en fait, je vais lui demander de me proposer un plan, mais surtout l'alimenter avec des choses que j'ai faites à moi à la main, en existant, pour s'inspirer d'un style. Et en fait, le mix de ces trois approches est assez troublant, voire même ça fait un peu peur, parce qu'il me sort des contenus dont je ne suis pas capable, si je les regarde deux jours après, de savoir
si c'est toi.
Si c'est l'IA.
Quelle IA tu utilises? Faut dévoiler.
En fait, j'utilise une combinaison un peu bizarroïde de ChatGPT et Claude.
Ok.
Je sais que Claude se démerde mieux pour certains trucs et ChatGPT pour d'autres. Et donc, en fait, c'est un jeu entre les deux qui en général.
Je précise peut-être pour les newbies, tu prends les modèles les plus avancés, on est d'accord?
Non, oui, je prends quand même les modèles. Ça dépend, c'est pas systématique. On va dire, ChatGPT, je vais pas forcément prendre les derniers modèles. Pour Claude, je vais prendre le dernier modèle. Et puis, il y a des histoires de skill aussi dans Claude qui permettent d'améliorer les choses. Donc, en fait, je ne pourrais pas vous expliquer le process parce que moi-même, il n'est pas hyper, hyper stabilisé. Mais en général, je vais, par exemple, en fait, poser mes idées manuellement, de façon classique, demander en fait, à ChatGPT de faire des recherches complémentaires et me proposer un plan, faire une première rédaction sur ChatGPT, l'envoyer en fait envoyer le résultat à Claude pour lui demander de l'améliorer en fonction de certains axes parce qu'il a plus de finesse rédactionnelle, mais il est moins bon sur les recherches. Une fois que j'ai mon bidule, je le remets sur ChatGPT et je lui ai appris des styles. Je lui dis, voilà, tu vas me réécrire ce truc-là dans le style de ce que tu connais. Et ça peut être, on va dire,
pas un journal. Ouais, ce que tu dis, Fabien, je suis d'accord à l'écrit, ça marche, mais comme Céline, quand on est à face caméra et qu'on parle...
Ah oui, je pense que ça
ne peut pas lire un script.
Non, je suis vraiment d'accord.
Mais par contre, ce que tu évoques, Fabien, c'est en effet, on travaille aussi ça, notamment quand on a fait le paramétrage de ChatGPT. Je lui ai donné mon ton. Alors déjà, rien que de lui préciser que je suis une femme, un petit détail quand même, parce que excusez-moi messieurs, mais bon, voilà, il n'a pas trop fait la différence si j'étais Céline, si c'était masculin ou féminin, n'est-ce pas? Donc, c'est un détail, mais en effet, le fait de paramétrer, lui donner mon ton, lui avoir donné quelques postes, dans certains cas, ça me fait gagner un temps de max. Et alors, petite astuce, parce que moi, je suis un poisson rouge, et des fois, j'ai une méga idée. Alors, j'en ai 10 à la seconde, dirait Philippe. Et donc, je dis, oh, putain, j'ai oublié de noter. Maintenant, je me fais des notes. Et ça me permet de retravailler, et heureusement que j'ai ça, parce que, et pour même dans les deux activités, hein, que ça soit côté Disséline ou côté Confédération, ça me fait gagner un putain de temps.
Ouais. Mais c'est vrai que tu as raison. Moi, par exemple, pour les vidéos comme celle-ci, quand je demande à l'IA de me faire un résumé avec les idées, les conseils, tout ça, bon, moi, je préfère utiliser Grok. Je trouve que pour les textes, les meilleurs, mais bon, c'est un point de vue. Mais c'est jamais aussi bon que je pourrais faire moi-même. Il oubliait des trucs. Mais ce que j'aime bien faire, c'est, alors, j'ai pas tout le temps, mais c'est de prendre Opus Clip, qui me fait des meilleurs clips, des résumés, et prendre ces transcriptions-là et les ajouter dans le texte. Et là, Opus Clip, je trouve qu'il détecte bien les trucs et astuces, les moments que ne sait pas faire l'IA, qui sait faire un gros truc. Voilà. Mais juste pour revenir, donc on parlait de présence défensive et de présence offensive. Offensive, tu as dit, Jean-Baptiste, c'est YouTube pour toi, Substack en second. Alors, oui. Parce que moi, je dis à tous les éditeurs, c'est vrai que j'aime bien Substack parce que c'est des formats longs, je trouve que c'est un peu plus original. Vous êtes plutôt quoi en format? Moi, alors Fabien, ça va te choquer, mais mon blog est devenu un réseau secondaire et je me concentre plus sur LinkedIn, alors que c'était le blogging, tu sais très bien que c'était pour toi et pour moi, c'était un truc de malade. Alors, quelles sont pour vous vos présences défensives et on va dire offensives?
Très bonne question.
Le blog reste toujours malgré tout un endroit où on se retrouve. Alors, je suis un peu comme toi, Fred, sur la partie éditeur de logiciels dans un secteur, on peut pas dire de niche, mais pareil, si on fait juste un petit parallèle avec ce que tu disais au début sur la baisse du nombre de visiteurs, on l'a pas trop connu du côté d'Inwink non plus, parce que voilà, on était sur des articles de niche et donc clairement, ça pour moi c'est du défensif. Il faut un minima voir ça. Et voilà, juste pour par rapport à l'infobésité qui peut y avoir, on a eu un concurrent à un moment qui est passé sur son blog de 100 articles à 800 articles en l'espace de 3 mois.
Fabien, c'est toi.
Ça peut être mes collègues qui font ce genre de choses. Ouais.
Alors, sur tout et n'importe quoi, sur vraiment du mot-clé basique à du mot-clé très technique, donc stratégie SEO qu'on aurait pu faire il y a quelques temps, mais en 3 mois, Google l'a shooté. Et d'une force, mais un truc, je ne sais pas s'ils vont pouvoir revenir derrière, ou alors s'il n'y a pas des garde-fous qui ont été mis en place par Google pour se souvenir, pour garder cette mémoire de personnes qui ont fait un peu trop de black hat, de black SEO, pardon. Donc, oui, le défensif est vraiment sur le blog. Après, l'offensif, c'est du tactique. Ça dépend sur certains sujets. Il y a certains sujets qui marchent bien sur de l'ads, clairement. Je parle du côté éditeur de logiciel. Hein. Il y a de l'ads, c'est des sujets qui fonctionnent très très bien. Il y en a d'autres, c'est du post LinkedIn basique, mais du post LinkedIn véhiculé par des personnalités et pas par un compte entreprise. Ouais. Ça, vous savez très bien. Voilà. Donc c'est un mix en fonction des sujets, de la temporalité et des personnalités pour moi.
C'est vrai que j'ai réduit. Autant avant, j'écrivais sur l'ancien blog de Disséline, parce qu'on a changé entre temps, mais j'écrivais pratiquement tous les 15 jours à peine un article. Je me suis épuisée, clairement, entre les posts Instagram, parce que j'en faisais pratiquement tous les jours avant, les articles de blog et LinkedIn. Maintenant, je suis très LinkedIn et Insta. Mais j'avoue que ces derniers temps, j'ai peut-être un petit peu plus de plaisir sur LinkedIn que sur Insta, même si je ne délaisse pas du tout Instagram, hein, mais c'est peut-être plus le manque là pour le coup. Alors, tu vas me dire, même si on a de l'IA, on est quand même tous rattrapés par la vie de manière générale. Donc, même s'il y a des outils pour nous aider, en plus, c'est horrible parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. On accompagne les clients et on leur parle de régularité, blablabla. C'est un sujet qu'on aborde très bien avec, enfin, tu sais, Jean-Vie avec Aurélie notamment. On en parle souvent de ça, on dit toujours, mais merde, on conseille des choses, mais des fois, on ne peut pas non plus l'appliquer quand tu as la vie qui te rattrape. Je parle juste du quotidien. Et donc, du coup, j'ai réduit, mais aussi parce que quand j'en suis arrivée à un point, que ça soit LinkedIn et Instagram, si moi, ça ne me fait pas plaisir, si je me dis, voilà, faut que je poste un truc et que quand tu le lis, ça te fait déjà chier ce que tu as écrit. Donc, je me dis, si moi, ça m'emmerde, j'ai peur pour ma communauté ou les gens qui vont me lire. J'ai trop de respect pour eux, donc je ne vais pas le faire.
Oh, toujours Blaise Pascal, hein.
Mais voilà, exactement.
Ouais, c'est une question de respect. Moi aussi, je suis comme toi, j'essaie toujours de me dire, est-ce que moi, j'aurais envie de lire cet article de blog? Et c'est vrai que par contre, l'IA, là, apporte vraiment beaucoup, parce que je trouve qu'il permet de compléter les choses sur des théories, des bouquins, des citations, des machins qui apportent.
Juste et c'est marrant de vous entendre parler, Fred et Céline, de LinkedIn. Pour moi, c'était devenu un peu la guerre, le riche qui a baissé, etc., que c'était devenu de plus en plus compliqué. Vous tenez bon, moi je me prends plus la tête avec LinkedIn, c'est fini quoi. Enfin, j'y vais de temps en temps.
Je me prends plus la tête avec les stats.
Ah, ok, d'accord.
Un moment, c'est pour donner une info. et apporter quelque chose aux gens qui vont te lire. Okay. Donner, enfin, à un moment, je me suis... Mais c'est pareil pour Instagram, parce qu'il y a eu maintenant tellement... Il y a tellement d'IA aussi sur Insta. Les gens publient, enfin des gens ou même des confrères et consœurs publient 3-4 fois par jour pour, et qui viennent de commencer, donc ils dépassent des fois le nombre de followers que j'ai, mais parce que c'est leur stratégie et ils ont le temps de le faire. Ils viennent de se lancer, c'est le moment ou jamais, je ne peux même pas critiquer parce que profitez-en, ils sont plus jeunes, ils n'ont pas deux activités, ils n'ont peut-être pas les différences voilà, problématiques autour de nous, et tant mieux, ils ont raison. Mais du coup, c'est le même contenu que nous, on a publié déjà il y a 10 ans, qui redit comment faire un arc-en-ciel sur Instagram, comment te dire que... Et du coup, ils font des vues et ils ont raison d'une certaine manière. Mais en fait, tout le monde fait le même contenu. Tu as la même traîne, tout le monde te fait exactement le comment lire les statistiques Instagram et ils te font exactement la même vidéo, les mêmes mots. C'est hallucinant. Mais ils ont dépassé parce qu'ils ont réussi à créer du contenu, ça fait des vues et ils sont poussés par l'algorithme et ainsi de suite et ainsi de suite.
Je ne suis pas sûr qu'ils fassent des ventes parce que ce que tu dis là, c'est des choses vues et revues.
Ah oui.
Exactement.
Ah ouais. On est bien d'accord.
Ah, mais c'est vrai que cette partie aussi, réutilisation du contenu, elle est importante. Moi, je sais qu'il y a des réseaux qui ont encore du trafic, du TikTok par exemple. Tu fais des shorts, finalement, moi, tu fais le minimum syndical. Tu fais 200, 300, 400, parfois 600 vues. Il y a quand même de la réutilisation du canal. Toi, tu le fais, Jean-Baptiste, avec Substack. Et LinkedIn, comme tu le dis, de manière un peu light, mais ouais. Je pense qu'il fait. Mais on verra tout à l'heure dans ton retour d'expérience que justement, la réutilisation de short, c'est pas forcément ta tasse de thé. Voilà.
Tout à fait.
Mais bon, je dirais encore une fois, oui, les vues, mais surtout le relationnel. Moi, ouais. je disais tout à l'heure, j'envoie un bon anniversaire parce que je le pense, hein, parce que c'est dans ma philosophie. Certains diront assez faux cul, etc. Mais il faut travailler sur le relationnel et travailler son réseau. Par exemple, ce webinaire-là qu'on est en train de faire ensemble, en fait, j'ai fait une promo, mais auprès de mon réseau. C'est-à-dire que vous avez une petite fonction, quand vous avez le webinaire, là, vous avez invité, et vous pouvez inviter, en fait, 1000 personnes par semaine. Et donc là, pour le webinaire, il y a 138 inscrits ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a une bonne centaine, même plus, qui viennent en fait de ce travail-là. Donc en fait, grosso modo, il y a, on va dire, plus de 10 ou 15% des gens à qui j'ai envoyé une invitation qui se sont inscrits via ce système-là. Et là, la petite astuce, c'est tu prends ton profil LinkedIn, tu fais un extrait de tes archives, tu récupères sur Excel tous tes contacts, tu as une liste que tu filtres par la profession. Moi, j'ai choisi des gens qui étaient intéressés par le marketing. Tu utilises la fonction d'invitation de LinkedIn, tu mets le nom, prénom, tu copies-colles le nom, prénom de la personne, tu l'invites et tu fais ça par paquet de 25 sans dépasser les 200, 300, 400 par jour, autrement tu te fais shooter. Mais comme ça, en fait, tu arrives à cibler les bonnes personnes avec un bon message qui n'est pas trop emmerdant. Parce que je fais aussi du direct message et c'est vrai que le direct message, quand on a envoyé 2-3 à des personnes, à la fin, ça sature un peu. Donc,
ouais,
cet aspect relationnel est quand même assez important. Alors, je vous propose que Céline et Philippe, vous nous parliez un petit peu de vos nouvelles habitudes IA aussi.
Ouais. Donc là, on a pris un exemple parce qu'effectivement, ce qu'on évoquait quand on se parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on se retrouve dans beaucoup des cas de Janvier et de Fabien, mais on a voulu donc vous montrer, nous, plutôt sur la formation, qu'est-ce que ça nous avait apporté au final, sachant que la majorité des formations, elles existaient déjà, qu'on améliorait d'une année à l'autre ou de changements, notamment sur Instagram ou LinkedIn, par exemple, parce qu'on intervient sur différents volets. Et maintenant, on a un travail un peu... On a essayé d'updater à mort les formations grâce à cette méthodo, façon de parler. Tu veux commencer peut-être ?
Ouais, c'est en fait un peu comme toi, Fabien, on mixe un petit peu plusieurs outils avant et puis ensuite on a certes une certaine petite trame, mais parfois on va commencer par l'un ou par l'autre. Là, en l'occurrence, c'est une des dernières formations qu'on a eu à mettre à jour. C'était sur Google Business Profile où on ne peut pas dire que ce soit le sujet le plus attractif et le plus évolutif actuellement.
Mais qui concerne aussi nos détaillants, les détaillants qu'on accompagne en fait.
Voilà, exactement. Donc là, sur Google Business Profile, on a commencé à faire des recherches sur Perplexity.
Dernières nouveautés pour mettre à jour qui existaient, je précise.
Clairement, Perplexity est très très bon pour aller chercher des sources, vidéos, mais pas que, des articles, etc. À partir de là, on travaille avec un autre outil qui s'appelle Notebook LM, qui nous permet de, notamment pour les vidéos YouTube, de les retranscrire, de récupérer la moelle de chacun, de chacune de ces vidéos. Et puis derrière, de savoir si au final, est-ce que notre presse actuelle, elle est encore actuelle ou pas. C'était surtout pour ça, parce que l'idée, ce n'était pas de prendre from scratch tout ce que nous disait, tout ce qu'allaient nous dire ces IA, mais c'est de savoir si est-ce que notre formation est toujours actuelle. Et quand même, dans la grande majorité des cas, et notamment pour celle-ci sur Google, elle l'était, mais il fallait rajouter des éléments, notamment sur certaines innovations, sur certains retraitements que Google pouvait faire. Donc bref, tout ce contenu, on l'a ensuite retravaillé, on le retravaille dans ChatGPT.
Ouais. Pour rebondir ce que tu dis, Philippe, sur le bouquet LM, vous avez complètement raison, hein, surtout si vous sensez bien. Moi, je déconseille Perplexity parce que, mais Fabien pourrait en parler, parce qu'il va aller récupérer des informations sur le web par rapport à ce qu'il a indexé. Alors, je ne sais pas trop d'où vient l'index, mais ça va être sommaire. Alors que là, dans notre bouquet LM, tu mets vraiment les vidéos YouTube, il y a tout le contenu, il y a le PDF.
Alors, Perplexity, c'est super pour faire une première recherche un peu générique. Ouais. Voilà. Par contre, en fait, pour chercher des sources plus fine. Personnellement, alors je fais mes recherches avancées avec ChatGPT et je trouve que c'est un axe sur lequel il est très 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 loin devant tout le monde en fait. Hein. Et après, à une époque, j'avais testé Grok, c'était pas mal. J'ai pas fait de test récent, donc je ne sais pas où il en est. Mais vous voulez faire des recherches avancées, il y a un module recherche avancée dans ChatGPT et même le module de recherche classique. À une époque, il sortait beaucoup d'âneries. Maintenant, le taux d'erreur est devenu relativement faible, surtout si vous lui dites « Attention, vérifie bien que les URL, les exits, blablabla. »
Exactement.
Ça commence à devenir vraiment pas mal. Voilà, c'est un bon outil.
Mais c'est justement, voilà, tu vois, c'est en fonction du sujet, mais et surtout de notre ressenti, parce que vraiment, l'idée, c'est que derrière, cette formation, elle sera donnée en live, en physique, en face-à-face. Donc vraiment, il faut qu'on assume ce qui est dit. Et donc, une fois qu'on a un livrable qui nous a challengé celui qui existait, bah on va le travailler sur Canva. Et là, l'IA dans Canva, bah, elle est de plus en plus présente un peu partout, que ce soit pour la reformulation. A priori, c'est vraiment le dernier kilomètre, mais c'est vraiment la génération d'images, d'illustrations, de vidéos aussi, d'animation d'images en vidéo. Ouais. C'est des choses qu'on n'utilisait pas jusqu'à présent ou qu'on allait faire ailleurs. Maintenant, Canva le fait, c'est tant mieux.
Non, puis en plus, même ça paraît un détail, mais quand tu as mis tes phrases et tout ça, et que tu fais juste correction avec l'IA, Canva IA, tu n'as pas besoin de retourner ailleurs pour pouvoir corriger ton support. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que certes, on essaye de vérifier que notre formation déjà est à jour, ce qui n'empêche pas de nous-mêmes, avec notre propre esprit critique, de vérifier. Et puis, la mise en application sur le domaine de nos clients, parce qu'à chaque formation, ce n'est pas la même presse, c'est une presse adaptée au secteur et au commerce. Je parle pour le commerce parce que c'est en particulier sur ça, mais on va chaque fois l'adapter avec des cas pratiques pour eux. En fait, l'idée, c'est qu'ils aient vraiment l'impression de « c'est une formation faite pour moi, adaptée à moi, à mon, ma problème ». On est très égoïste en fait, hein. Et enfin, c'est pas vous, je vais l'expliquer, mais si je lui explique que c'est un exemple de coiffeur alors que lui, il est une boutique d'art de la table, lui, il a besoin des exemples concrets pour son business à lui. Et donc ça, il n'y a que nous qui pouvons l'ajouter, même si on peut challenger, peu importe, ChatGPT ou Claude sur un sujet, l'expérience terrain, l'avantage, c'est que c'est moi qui l'ai. Donc, du coup, on peut donner des vrais cas concrets et puis parce qu'on va régulièrement sur le terrain auprès de ces détaillants ou dans l'événementiel pour toi, par exemple. Ouais.
Mais c'est vrai que là on voyait la puissance de l'omnicanal. Il y a Aurélie qui disait « Moi, je suis venu depuis la newsletter Jean-Baptiste. » Et c'est vrai que moi aussi, j'ai bougé sur Substack parce que je trouve que c'est un nouveau canal intéressant. Alors pourtant, j'ai une solution d'emailing classique. J'envoie des emails, entre guillemets, à base fraîche. Et pourtant, j'utilise Substack parce que c'est ma base à moi. Et tu disais tout à l'heure « Ok, moi, je continue sur LinkedIn. Pourquoi ?» Parce que j'ai une audience, etc. J'ai la communauté. Mais aussi, je renvoie vers mon site. Parce qu'en fait, j'essaie quand même de le faire vivre un peu.
On a vu d'ailleurs pas mal de gens passer de LinkedIn à Substack. Et d'ailleurs, ça peut agacer certaines communautés Substack qui voient le ton conversationnel un peu avec les espaces sur les deux phrases et tout, qui n'est pas trop le code sur Substack. Mais moi, j'ai bien senti en tout cas qu'il y avait un mouvement de gens qui avaient perdu du reach sur LinkedIn et qui venaient nous rejoindre sur Substack.
Mais sur Substack, c'est intéressant uniquement si tu as déjà une communauté. Moi, tu vois, j'ai pris tous les inactifs de ma newsletter. Les actifs, je les garde, tous ceux qui lisent la news depuis moins de 6 mois. Ok, ça m'a permis de réduire un abonnement, annuler un abonnement.
Ah oui, raison économique, tout à fait. Ouais,
ouais, je, en fait, envoyé à.
C'est gratuit, Substack.
Et ouais, ouais, c'est gratuit. Puis finalement, c'est assez bon. C'est pas hyper bon sur le reach parce que je trouve que leurs stats sont pas très justes quand ils disent ouais, vous avez eu tant d'ouvertures. Mais non, faut vraiment vérifier les clics. Et quand tu regardes vraiment les clics, c'est pas la même chose qu'une vraie solution d'emailing. Enfin, voilà mon avis perso. Mais ça permet d'avoir un autre canal. Et surtout gratuit pour réactiver les zombies qui ne les aient plus aux emails. Ça,
j'aurais juste rebondir là-dessus parce que si tu parlais de stratégie offensive-défensive, je pense que c'est même plus une stratégie défensive, c'est un passage obligatoire. Alors on y est ou pas, personnellement j'y suis pas encore, mais qui est d'avoir entre guillemets un message de départ et des déclinaisons par réseau. C'est ce qu'on fait théoriquement sur les réseaux sociaux où on ne va pas publier la même chose sur Insta, sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube, etc. Donc ça, c'est la théorie. Sauf que bah, dans les faits…
On a perdu. Fabien, ah, t'as perdu.
Ah, Fabien,
dans les faits. On en était dans les faits.
Voilà.
Bon, je suis désolé. Donc je disais, on va dire théoriquement, on est supposé diffuser des contenus différents par réseau.
Ouais.
Par réseau social, par plateforme, en écrit, à l'audio, etc. Parce que sinon, ça ne sert à rien de dupliquer le même contenu partout, ça n'a plus aucune valeur. Et donc, du coup, on ne va suivre qu'un seul canal. Donc, théoriquement, on est supposé faire ça sur les réseaux sociaux depuis très longtemps, sauf que dans les faits, c'est très compliqué à faire, et c'est pour ça que vous expliquez que vous vous êtes tous recentrés plutôt sur un ou deux réseaux sociaux, et moi, pareil, en fait, hein, j'ai qu'un seul réseau social que j'utilise réellement, et du coup, c'est compliqué de décliner. Je pense que si aujourd'hui, il y a des outils, il y a des, que ce soit de l'agentique, des automatisations et tout ça, qui facilitent en fait cette déclinaison. C'est pas pour autant que c'est facile et que on appuie sur un bouton et ça marche direct. Hein, malheureusement, c'est pas comme ça. Mais je pense qu'il faut impérativement aller vers ça et surtout apprendre à suivre et à comprendre chaque réseau et ceux dont on n'a pas l'habitude, parce qu'on peut avoir de bonnes surprises. Et ça permet aussi de se protéger un petit peu plus du fait que bah, on se fait ban par un réseau, bah, c'est la fin du game, quoi.
Ouais.
Je suis que sur YouTube et YouTube a décidé que pour une raison farfelue, il voulait plus de moi, et bah, c'est fini. Et donc du coup, et c'est de la même façon que Google a décidé qu'il voulait plus de moi pour mes sites, c'est fini. Donc en fait, c'est un truc dont on sait tous qu'il faut le faire depuis très longtemps et que c'est très compliqué de le faire correctement. Je pense qu'aujourd'hui, on commence à avoir les outils qui permettent d'avancer là-dessus. Voilà. Donc,
ouais. Alors là, j'ai affiché ta méthodologie d'écriture, tu nous as donné quelques petites infos tout à l'heure, mais toi, tu es vraiment en se dire, voilà, je vais essayer de me différencier, c'est ça
pour les contenus que j'écris.
Tout à fait.
Bah, pour les contenus que j'écris, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien de faire du générique et, comme tout le monde, hein, mais ça, ce n'est pas nouveau. Mmh. Et effectivement, non seulement il faut essayer de se différencier avec un ton, etc., pour avoir une petite identité, mais ça, ce n'est pas évident. Parce que même, il y a tellement de créateurs de contenu, je ne suis pas assez influent, je ne suis pas assez gros. Mais en fait, un axe surtout, moi, que j'essaie de privilégier, c'est d'aller vers des contenus qui sont difficiles à synthétiser ou à trouver ailleurs. Je vous donne un exemple, en fait, qui date de ce dimanche, en fait. Je me posais la question, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de pâtes différentes, au riz, sans gluten, etc. Et quelque chose, en fait, qui dépasse ce que j'imaginais. Moi, j'imaginais qu'il y avait 4-5 types de pâtes. En fait, il y en a peut-être 20, ou 25, ou 40. Donc du coup, si je pose une question à l'IA là-dessus, ça va être très compliqué hein, d'avoir une réponse qui corresponde à ce que je veux. Et donc, bah, si jamais je crée des contenus spécifiques pour chaque sous-thème que je lis, etc., et que je crée un espèce de planning éditorial, bah, du coup, cet axe de travail, alors évidemment, je peux le faire avec l'IA et l'IA peut y répondre, mais c'est on va dire, l'internaute, il n'a peut-être pas l'idée de la question, en fait. Il n'est peut-être pas capable de formuler la question. Et donc, du coup, la réponse, elle sera pas satisfaisante par rapport à ça. Si moi, je pré-mâche ces contenus et je les structure, bah, quelque part, je me différencie. Voilà. Donc, je ne crée pas une valeur énorme, mais il faut partir du principe que, on va dire, ça rejoint moins une de mes convictions, que l'IA ne fait jamais d'erreur, en fait, dans ce qu'elle vous répond. Par contre, en fait, elle va vous répondre à côté de la plaque parce qu'il lui manque des informations. Vous ne lui avez pas fourni parce qu'elles vous paraissent évidentes. Et du coup, bah, il part sur un corpus d'informations réduit. Donc, il répond à quelque chose qui est bon par rapport à ce qu'il connaît. Et vous, vous dites, mais c'est un résultat bidon. Ben oui, mais parce que pour vous, c'est évident tel élément, mais pas pour lui. Donc, il faut lui préciser. Et en fait, ça rejoint toujours ça. Et ça rejoint aussi le fait que ben, l'internaute, il veut une réponse rapide. Donc, s'il doit passer par 5 étapes et recomposer les trous, ben, il va dire, ben, cette IA, c'est de la merde. Et donc, du coup, moi, j'essaye de construire des contenus qui rentrent dans ces trous-là. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais...
Ok. Alors justement, Céline et puis Philippe, vous avez aussi un autre exemple de quelque chose qui marche. Et vous donnez l'exemple avec le marketing Ding Week.
C'est un outil interne, hein, vraiment. C'est quelque chose qui avait été pensé uniquement pour centraliser plusieurs outils entre un Notion, entre un outil de suivi de time tracking, bref. C'est vraiment une vocation interne. Et pour ça, en fait, soit on passait avec un développeur, parce qu'on est un éditeur logiciel, qui allait passer un peu de temps, mais je pense qu'ils ont un petit peu autre chose à faire. Soit on multiplie les abonnements un peu à droite à gauche. Et ce qu'on a fait au final avec l'équipe, c'est qu'on s'est d'abord réunis, on a essayé de voir quels étaient nos vrais besoins. Donc là, on a quand même travaillé un petit peu sur le besoin. Et l'IA nous a trouvé aussi d'autres idées. Donc ça nous a permis d'aller plus vite sur « et si vous rajoutez ça ?»« Et si dans la partie gestion budgétaire, vous rajoutiez ceci ?» Et donc, ça nous a fait un vrai fichier de spec, en fait. Quelque chose de très, très développé qu'on a mis en place tout simplement en faisant un combo d'un outil qui s'appelle Visual Studio Code, que certains peut-être connaissent, notamment les développeurs. À ça, a été couplé un abonnement de GitHub Enterprise et sur lequel on a utilisé du cloud. Donc, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que de cette phase de besoin, qualification, idéation, on a pu développer et mettre en pratique ça sans avoir utilisé un développeur.
Et vos devs chez Unweek, ils utilisent ou pas Cloud Code?
Ils utilisent derrière un GitHub Enterprise quand même, parce que l'idée c'est de mutualiser toutes ces ressources. Et là, le sujet du moment, c'est plutôt la tarification que Microsoft a fait varier, qui est passée de la tarification au token dernièrement. Donc pour le coup, ce qui était un gros avantage jusqu'à présent est devenu un petit peu un puits sans fond en termes de dépenses. Mais pour le coup, c'est un vrai besoin de l'équipe. Et nous, d'un point de vue marketing, alors on n'est pas des devs, hein, on s'est quand même posé autour de ce projet pour qu'il soit quand même secure, etc. Mais on est assez content du résultat, parce que maintenant, il est utilisé par l'équipe marketing qui est de 5 personnes, mais aussi par les sales, mais aussi par les CSM. C'est passé au-delà du POC. Vraiment, c'est passé à l'état. Notamment, là, il y a dans la capture, tout en bas, il y a un petit outil de signature de mail qui est, pour faire simple, ceux qui connaissent des équivalents de Signitic ou des outils d'ajout de bannières.
LightSignIt,
etc.
Les devs qui ont bossé dessus, ils sont contents justement d'avoir utilisé des outils d'IA.
Il est là, le dev.
C'est toi ? Oui, c'est moi. Je sais pas, tu disais que t'étais marketeur, pas dev. T'es les deux, alors.
Ouais, il est bon, lui. Hein.
C'est pas une surprise. Hein. T'es content, alors, j'imagine. Tu dois être heureux. Non, mais c'est important de prendre du plaisir quand on dev, non ?
À la base, si tu veux, ça, c'était un vrai besoin, un vrai projet, mais un side project que tu fais le week-end, le soir. Okay. Voilà. Et en fait, quand tu vois la finalité, que ça peut fonctionner et que derrière, c'est utilisé par les équipes, encore une fois, il y a quand même des biais, enfin des choses qu'il faut faire attention en termes de développement avec Claude ou autre. Hein. Typiquement, l'une des premières sessions, après je laisse, mais l'une des premières sessions, je lui avais demandé, je veux quelque chose d'exploitable rapidement. Claude avait interprété ça comme, eh bien la partie login, mot de passe, eh bien on va faire en sorte de la mettre en dur dans le code source, ce qui fait que tu aurais pu mettre n'importe quoi en termes de mail et de mot de passe, tu aurais fait valider, ce serait passé direct. Donc, faut faire attention. Faut quand même avoir ce genre de.
Est-ce que tu as eu le réflexe de regarder et te dire waouh, là c'est chaud en termes de sécu, quoi.
Ben, parce que comment j'ai fait, j'ai tout simplement fait une erreur dans mon mail. Et j'ai vu qu'il acceptait quand même. Mais bon.
Je fais juste un retour, parce que maintenant moi 80% de mon temps c'est du codage. Hein, donc et 80% du codage il est fait avec l'IA. En fait, il y a une étape qui est souvent zappée par les vibe codeurs. En fait, il faut bien comprendre qu'on demande un besoin, il sort des merveilles en 10 minutes. Hein. Donc, il sort des trucs absolument fabuleux. Par contre, en fait, souvent on dit, bah, tiens, j'ajoute un truc, etc. Et donc, en fait, on rajoute des verrues sur des verrues. On a toujours quelque chose qui est joli, Mais on ne se rend pas compte que derrière, la construction, elle est, on va
c'est
dire...
C'est sur du sable.
Ouais, bah, c'est pas sur du sable, mais on va dire que c'est une accumulation de petits trucs les uns par-dessus les autres, mais ce n'est pas fait pour vivre. Non. Et donc, en fait, là, dans votre slide, le plus important pour moi, c'est la petite boîte où il y a écrit « idéation ». En fait, il faut soit, une fois qu'on a quelque chose qui est à peu près fini, soit en amont, avoir des specs vraiment. Et avoir un truc carré, je veux un système de login avec ça, je veux un truc avec ça. Si jamais j'ai, je ne sais pas moi, des boîtes, eh ben, tu me fais un style commun pour toutes les boîtes, que je n'ai pas une bordure à gauche, une bordure à droite qui sont définies différemment, etc. etc. Donc, il faut structurer. Aujourd'hui, les IA peuvent le faire, mais il faut vraiment les guider. Je pense que demain, elles le feront toutes seules.
C'est ça.
Mais voilà. Et donc, en fait, si on zappe cette étape-là, on va avoir un truc qui est très beau. Et puis, le jour où on veut faire de la maintenance, c'est la catastrophe. C'est le chaos parce que je veux rajouter un truc, je modifie un bidule, et là tout s'effondre, on ne comprend plus rien. Et à la limite, si c'est un POC interne, ce n'est pas très grave. Si c'est une production avec des clients, c'est le chaos total. Voilà.
Donc, c'était bien. Ce que tu dis, en fait, juste je rajoute le nombre de codes morts, de lignes de code mort qu'il te rajoute sans que tu ne le saches et avec les risques de passoire en termes de sécurité et de performance. C'est juste
non, ça fait 3 mois que je fais du pure vibe coding, je suis passé là-dessus. Et en fait, toutes les semaines, je consacre une journée entière à regarder, j'ouvre le capot, je regarde s'il a bien respecté tout ce que je lui ai demandé, je regarde si les fichiers, les fonctions, les machins, tout le bazar est bien rangé, et je passe une journée entière à tout corriger, moitié à la main, moitié avec lui. Parce que le problème, c'est que comme il est parti sur une direction qui n'était pas bonne parce que je n'ai pas été assez clair, si tu lui demandes de corriger, alors là, c'est des boucles sans fin et ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas, on perd un temps fou. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, il faut faire très attention à bien spécifier. Finalement, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin forcément de super développeurs. Par contre, il y a besoin de bons architectes quelque part. Et si on ne lui donne pas un plan d'architecture, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit parfait parce qu'il n'y a pas d'architecte en fait. Hein. Donc voilà, donc, aujourd'hui, il faut faire gaffe à ça. Demain, peut-être que ce ne sera pas besoin.
Ouais, mais je te rejoins. Le site Numericissimo donc, qui organise ce webinaire ce midi a été entièrement refait en vibe coding, mais avec un dev. C'est-à-dire que c'est Hervé Cabla qui a fait le site. Et c'est vrai qu'on a été bluffé. Il nous a dit j'ai fait ça en une après-midi. Après, derrière, il y a des évolutions. Je trouve que les évolutions vont assez vite. Mais comme tu l'as dit, si tu n'es pas dev, tu peux facilement péter un truc ou rajouter du code et c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que.
Il y a une question de vocabulaire en fait. Il y a des trucs débiles. Je discutais de ça avec un ami. Je disais voilà, il y a deux, trois. Il y a des mots-clés de vocabulaire. Si tu ne les connais pas, ça va mal se passer. Wrapper, helper, normalisation, référentiel, des trucs comme ça. Tu ne lui dis pas, il ne sait pas, il va en fait. Il va. Et puis derrière, c'est la cata. Enfin, c'est le bazar.
Alors, Jean-Baptiste, toi, tu as appliqué donc l'IA à fond, 50% IA, 50% humain. Alors, raconte-nous un petit peu ton retour d'expérience.
Ouais, alors ce qui marche bien avec l'IA, c'est quand on fait confiance à la moitié à l'IA et à moitié à l'être humain. Donc, c'est avoir une démarche de co-création. Donc, là, j'ai mis 3 exemples sur la rédaction d'un livre. Donc, le livre il a été beaucoup écrit avec des témoignages. L'IA m'a beaucoup aidé pour faire tout ce qui est transcription. Donc, il y a Aurélie qui est sur le chat. C'est peut-être pour ça qu'elle est venue d'ailleurs, parce que j'ai partagé l'image. Voilà. L'humain, tu vois, encore une fois. Donc, oui, l'IA m'a aidé, mais dedans, il y a des témoignages de créateurs. J'ai écrit moi-même. J'ai juste demandé à l'IA de corriger les fautes. Donc, j'ai mis là le chiffre de vente. 1300 exemplaires sur un an, c'est pas trop mal, quoi, sur un livre. Bien. Je sais que c'est très difficile maintenant de vendre des livres. Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est j'ai fait une reconversion professionnelle. Alors, je vais te donner un conseil, ne vous formez jamais à l'IA, acculturez-vous à l'IA, mais formez-vous, c'est ce que tu disais Fabien, Philippe, un métier. Alors, métier, ça peut être développeur, apprenez les bases. Quand vous êtes bon sur un métier, vous allez pouvoir mieux utiliser l'IA pour être meilleur sur votre métier. Et donc, moi, j'ai prouvé le besoin, la data, j'en fais depuis des années chez Orange, mais d'avoir une base solide sur des activités de data analyse. Donc, j'ai fait une reconversion pro. Et l'IA m'a aidé justement pour un petit peu démystifier tous les outils qu'on peut trouver de DataViz, quand on utilise des hybrides de Python, Panda, etc. Justement, de pouvoir tester sur des notebooks de façon très simple. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Mais ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est les interactions humaines que j'ai pu avoir lors de cette formation, donc aussi bien avec les formateurs qu'avec mes collègues, mes mentors chez Orange, qui ont des rôles bien définis, data analyst, data scientist, et sans eux, franchement, Ouais, je repars du site. Donc c'est pour ça que j'insiste à chaque fois 50% humain, 50% IA, quoi. Et alors, l'autre exemple, c'est sur les sponsors, mais là, c'est un petit peu. Donc, j'ai fait beaucoup de sponsors l'année dernière, beaucoup plus. J'en parlais avec Aurélie, justement, à l'oral. Comme je traite sur ma chaîne YouTube d'outils d'IA, je ne vous dis pas tous les mails que je reçois, j'en ai un par semaine d'un outil d'IA qui va être mis en avant sur ma chaîne. Donc, voilà, c'est un petit peu dérivé. Donc, ouais, donc ça explose les sponsors. Donc, je suis plutôt à refuser et à monter les tarifs, puisqu'il y a la demande. Et donc, on s'est fait plaisir. Et alors, j'ai eu trouvé le besoin par rapport à ça parce que je ne suis pas très confortable, moi, à faire de la publicité en dehors des publicités standards passées par YouTube. Donc, d'avoir un petit peu des recos pour présenter ça de façon légale. Donc, j'ai fait je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, la certification RPP, influence responsable. Et YouTube nous l'a financé. Donc, YouTube, wow. Voilà, ce n'est pas seulement des bots. C'est des boîtes quand ils dégagent des contenus, mais il y a aussi des humains en fait. Et depuis 2 ans, là, ils nous invitent aussi, comme je suis à Cannes, au Cannes Lyon. Donc c'est super sympa. Donc là aussi, l'enjeu humain est hyper important, quoi.
Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des réactions là qui disent super bouquin, by the way. Ça, c'est Christophe qui disait ça. Et d'autres qui disaient attention à la sécurité, l'enjeu. Surtout quand on fait du vibe coding et que ça devient un petit peu compliqué à analyser. Alors, si maintenant on parle un petit peu, alors est-ce que tu peux parler un petit peu les revenus ? Ça, tu l'as fait intégralement, ouais. Je l'ai vu dans ta vidéo, avec, tu as fait avec un extract de slide, de stats.
Ouais, alors j'ai mis mes données perso de YouTube sur Claude. Je l'ai bien précisé dans la vidéo, ne faites pas ça avec les données de vos clients, de votre entreprise.
Oui.
C'est ce qu'on appelle du shadow IA. On n'est pas là pour voilà. Moi, j'ai pas de problème à le donner. C'est mon souci de transparence. J'ai pas de problème aussi à dire que j'ai été contrôlé par les impôts il y a des années. Donc, c'est devenu, on parlait d'un axe de communication pour dire, voilà, j'ai déconné, maintenant, je fais les choses bien. Donc là, j'ai montré les chiffres pour vous donner des idées que ça marche aussi, les contenus IA. Sur les barres oranges, on voit tout ce que j'ai publié l'année dernière ou même l'année d'avant, parce que les contenus continuent à marcher dans le temps avec YouTube, qui sont à 60% générés, enfin pas générés par IA, c'est moi qui parle, mais qui parle d'outil d'IA. En fait, c'est plutôt le sujet qui est populaire, qui marche bien. J'ai aucune vidéo full IA, moi je suis pas fan de ça. Et d'ailleurs, YouTube a démonétisé les chaînes qui mettaient en fait un espèce d'avatar qui parlait, ou des vidéos qui étaient entièrement générées par IA, parce que c'est dans leurs guidelines. En fait, il ne faut pas faire de contenu répétitif, automatisé. Donc, ils ont pas mal sévi là-dessus. Voilà, et c'était juste pour montrer. Bah, on arrive un peu à faire avec la publicité classique, mais c'est vraiment l'axe fort. On disait les vues diminuent quand même. Donc, si les vues diminuent, il faut aller chercher du business, et le business, c'est les sponsors, quoi.
Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché ?
Alors, ce qui n'a pas marché, mais là, je pense que vous serez tous d'accord. Moi, je prône le qualitatif au quantitatif. Quand on fait des choses un peu automatisées, alors les deux points que j'ai mis là, automatisation totale ou publier en masse, je ne l'ai pas fait personnellement. Parce qu'au milieu, je l'ai fait, donc je vais vous en parler. Mais c'est plus un retour épidermique que j'ai quand je vais sur LinkedIn, des gens qui sans arrêt commentent parce que ça donne de la visibilité de commenter. Et alors, j'ai envie de dire, ce n'est pas à cause de l'IA, hein, parce que ça… On peut le faire également sans IA, mais faire un commentaire juste pour dire « Salut copain !» Et le pire, c'est que LinkedIn, en fait, c'est horrible parce qu'il met en avant les commentaires des gens avec qui vous êtes connecté. Et donc, je suis bombardé parce que je suis des personnes qui n'arrêtent pas de commenter des posts. Voilà.
Alors, je te donnerai mon expérience perso parce que justement, il y a 9 mois ou un an de ça, c'était vraiment une folie parce que tu avais plus de visibilité avec tes commentaires, tu attirais des trucs. Et c'est vrai que je l'avais sous-traité à mon assistante. Je lui ai filé un prompt qui générait 3 commentaires et elle générait genre 150 ou 200 commentaires par jour sur différents posts que j'avais sélectionnés sur des thématiques. Bon, manque de bol, LinkedIn a fait un peu de ménage, donc il m'a envoyé un petit avertissement. Donc maintenant, c'est que tous les commentaires sont de moi, ils sont beaucoup plus courts, et pourtant les commentaires étaient super bien, quoi. Ouais. Sincèrement, c'était des commentaires de qualité. Ouais, mais là, je vois les commentaires pourris. Ouais. Mais voilà, c'est en fait, tu te fais détecter si t'en fais vraiment 2 trop.
Okay.
Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Moi, je vois des gens qui commentent aussi sur mes publications. Je vois des commentaires en plus, ça pue l'IA. Ça fait un peu mal aux yeux, quoi.
Mais c'était valable aussi sans IA, hein, parce que tu peux même ne pas utiliser l'IA et faire un commentaire pourri. Alors oui, le retour que je voulais donner, c'est j'ai testé effectivement mes vidéos YouTube. Comme je vous ai dit, je concentre tout sur YouTube. Les faire en format short avec Opus Clip, qui est très bien. Le problème, c'est que sur TikTok, je crois que c'est Fabien qui en parlait, hein, et sur Insta, Céline sera d'accord avec moi, il faut faire des formats natifs. Il faut carrément filmer la vidéo à la verticale. Pour
sur Edit, comme ça, tu es encore plus poussé. Quoi.
Sur quoi, sur Edit ?
À partir d'Edit.
Ah oui, ça, je ne savais pas. Tiens, bon conseil alors. Vas-y.
Ah bah écoute, je donne une formation sur le sujet, si tu veux. non, mais du coup, ils ont développé un outil. Ils ont voulu concurrencer CapCut. Je vais rapidement en aparté, excuse-moi.
Vas-y, je t'en prie.
Ils ont effectivement concurrencé CapCut en créant Edit, un logiciel de montage vidéo natif Insta. Tu peux publier. Je vous donne alors l'astuce en live que j'utilise tout le temps, c'est que maintenant, mes stories sont montées sur Edit et partagées à partir d'Edit. Comme ça, au moins, tu as les bons textes au bon moment et ça me fait des vidéos courtes en story, super sympa.
Et ça booste la visibilité dans l'algo de passer par Edit et de publier
alors,
Edit.
Pour les vidéos, alors après, tu sais très bien, ça c'est Aurélie pourrait intervenir,
ouais,
c'est
le fait
parce que c'est notre copine Insta et qui tu sais jamais vraiment jusqu'où ça va. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est poussé, c'est marqué sur les vidéos réalisées avec Edit et leur intérêt, c'est de donner envie de venir encore plus utiliser Edit.
Ah, ok, indirectement, ils vont le pousser alors, ok.
Et puis, de toute manière, toutes les nouvelles fonctionnalités sur Instagram, dès que tu es dans les premiers à être utilisé, ce qui s'est passé très bien avec les Reels au départ, bah, en fait, tu es un peu plus poussé par la plateforme. Après, jusqu'où, ça, on ne sait jamais.
Alors, à réfléchir, il y a peut-être l'équivalent quand tu édites sur CapCut et que tu pousses sur TikTok, puisque…
Okay. À chaque fois, tu as les mêmes outils. Ouais, sur TikTok, les experts et TikTok, on va dire, on conseille de monter directement dans TikTok. Pour Insta, maintenant, tu as l'application Edit. Et en plus, elle est très, très bien faite. Pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout CapCut parce qu'il y a trop de boutons et parce que c'est pas assez payant, Edit a l'avantage d'être plus facile, même s'ils ont intégré toutes les fonctionnalités hyper intéressantes, rythme, les sous-titres, enfin plein de trucs comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Mince. Et en gros, elle est beaucoup plus facile d'utilisation. C'est natif Insta, donc tu es dans l'environnement Instagram. Donc tu retrouves facilement toutes tes musiques que tu as déjà enregistrées sur Instagram directement sur Edit parce qu'il est connecté. En fait, tu n'as que des avantages et ceux qui ne connaissent pas ou maîtrisent mal la vidéo, c'est un bon pas. Ça les aide vraiment. Quoi.
Je pense juste à un truc, en fait. Alors moi, j'ai quand même un réseau social où j'ai 1 million de zozos. Hein, donc, je fais pas trop de réseaux sociaux, mais…
Les zozos, c'est des internautes ?
Ouais, des internautes. Pardon, je ne veux pas comme ça, c'est un peu. Mais on va dire, j'ai quand même des réseaux sociaux avec 1 million de consommes dedans. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, en fait… comme faire de la masse, c'est la catastrophe pour plein de raisons. Faire de l'unitaire, ça demande du boulot et du temps. Il y a une voie qui fonctionne sur Facebook parce que c'est le réseau de view où je suis. En fait, c'est de temps en temps de faire un contenu, je pense que c'est ce que vous faites déjà probablement, de faire un contenu peut-être pas forcément hyper quali, mais avec un gros potentiel de buzz et de couverture. Mm-hmm. Qui augmente en fait temporairement mon reach pour le reste derrière, pour ce qui suit derrière. Et donc, du coup, j'envoie un truc qui ne me plaît pas trop, qui n'est peut-être pas très, très qualifié. Mais tout ce que je vais publier derrière va être boosté en visibilité pendant un certain temps. Et bon, c'est pas la panacée, mais ça fonctionne relativement bien sur Facebook, en tout cas.
Il y a l'air d'avoir une sorte de regain pour Facebook. Alors, moi, j'ai encore du mal. Hein. Pourtant, je suis vieille comme toi. Hein. Je pense qu'on a tous plus ou moins le même âge, quand même. Il y a plus de 40 ans, hein, on est d'accord. Mais on a l'impression qu'effectivement, il y a quand même un regain sur Facebook. Et nous, on a constaté ça en donnant des formations
à l'INSEC à Bordeaux, notamment.
À l'INSEC Bordeaux. Et quand ils nous ont dit qu'ils étaient sur Facebook, on s'est regardé, on s'est dit « Non, mais sérieux, vous êtes… c'est genre, mais sérieux, vous êtes sur Facebook ?»
Donc à retenir, il faut retourner sur Facebook. Alors, on retiendra ça de la conf.
Laissez tomber de bien aller sur Facebook.
Alors, n'oubliez pas, si vous voulez poser des questions, vous pouvez encore le faire. Il nous reste encore une dizaine de minutes, max. Donc oui, j'aimais bien aussi ton commentaire « Publier en masse et commenter en auto ». C'est vrai que je te fais un petit retour d'expérience.
Parce que, bon,
c'est vas-y. J'ai testé un petit script qui auto-likait les publications sur Substack parce que je me disais putain merde la plateforme, je vais quand même pas juste envoyer mes abonnés et tout ça. Et c'est vrai que ça ramenait une personne par semaine en likant, on va dire 50 publications.
Ah, je comprends pourquoi tout le monde like mes posts maintenant sur Substack. Voilà.
je suis
déçu, je croyais que ça plaisait.
Non, c'est un peu d'impact, ça a très peu d'impact. Par contre, ce qui marche bien, c'est ce que je fais, je demande à mon assistante de reprendre mes posts LinkedIn et de les refaire en format notes sur Substack. Et là, c'est vrai que ça te ramène une personne par jour, à peu près, un peu moins d'une personne par jour.
On voit le gros facteur là, hein, à fond.
Donc, c'est du réutilisation, comme tu dis, c'est pas du format qui plaît vraiment à Substack, mais c'est du format qui est quand même intéressant et qui n'est pas envoyé sur la newsletter, c'est juste du post. Hein. Voilà, donc ça, c'est des choses assez cool. Alors, si on parle un petit peu de ce qui n'a pas marché côté Céline et Philippe.
Alors là, c'est ce qui serait intéressant, vous voyez, c'est que même si on est associé, on n'est pas toujours d'accord. Tu veux peut-être commencer.
Alors, le premier sujet, là, pour le coup, on a voulu se comporter un petit peu comme une personne qui voulait télécharger, qui a vu passer sur LinkedIn des messages de type abandonner CapCut, abandonner Edit, etc., utiliser Claude et alors, il y en a plusieurs, il y a Remotion, Hyperframes, etc. On a voulu voir ce que ça donnait, en fait, pour voir si c'était capable de rajouter de l'habillage sans trop donner d'informations ou quoi, hein, voir ce que ça donnait de manière brute. Et en fait, le résultat était un peu déceptif. Il est très bon sur les cuts, vraiment, sur les cuts très professionnels. Il baisse le son, il a juste le son entre le début et la fin. Enfin bref, c'est vraiment très, très propre. Par contre, pour le reste,
waouh. Sur la vidéo qu'on avait fait.
Sur la vidéo.
Ouais, on avait fait une interview.
Ouais, pour vous. Ouais, parce que moi, j'ai testé aussi Hyperframe Remotion. Mais en fait, ils utilisent, en tout cas, je crois que c'est Hyperframe, une techno web qui s'appelle GZAP. GZAP, fait ouais. De la vidéo avec l'HTML et tu peux le demander nativement à Claude. Et ça marche assez bien. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Il faut juste lui demander dans le prompt de générer une vidéo qui va développer sur son serveur virtuel. Parce que le HTML vers la vidéo MP4, il y a toujours un rendu dégueulasse. Donc, il faut lui demander de bien préparer le terrain.
Là, en fait, la base initiale, c'était qu'on a fait une interview d'un dirigeant et en fait, moi, j'avais commencé à faire le montage de vidéos classiques, hein, tu vois, évidemment, avec le dérochage et tout ça. Et en fait, Philippe, en parallèle, me dit « Attends, moi, je vais faire un test. » On voulait tester. On est tout le temps comme vous, hein, je pense, en test et tout ça. Et du coup, effectivement, le résultat, et c'est là où on a besoin de l'humain, donc on en revient toujours au même sujet, c'est que moi, je sais ce que je voulais qu'il dise, le dirigeant d'entreprise, et parce que je sais ce que je veux donner comme rendu. Lui, l'IA, ne le sait pas, même si je lui donne quelques indications. Ouais. Mais dans les cuts, ils étaient très fluides, beaucoup plus fluides que les miens, finalement. Mais dans le message, ça n'avait rien à voir. Et puis, il y avait des sous-titres, des messages qui apparaissaient, des animations qui n'étaient pas très ouf. Par contre, ce qui était intéressant là-dessus, c'est que la technique, parce que cette technique de son entre deux cuts que j'avais pas forcément appliquée sur le mien, je l'ai travaillé avec un prompt en disant, voilà, évidemment, l'expert montage, tout ça, qu'est-ce que je dois faire dans mon montage pour pouvoir obtenir ce résultat-là, ce qui m'a permis d'améliorer mon montage, mais que je fais à la main. Ça, c'est une première chose.
Après, l'autre sujet, c'est on a eu un autre client pour une formation pareil où on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait appliquer
pour une boutique,
pour une boutique avec de l'IA, mais en boutique, hein, vraiment pas en ligne ou quoi que
physique.
Ce soit. Et là, il y a un thème qui s'appelle un planogramme. J'ai découvert le mot, pour être franc, quand on est merchandiser en magasin, en boutique.
Et j'ai fait ce métier-là, j'étais merchandiser, justement.
Et donc, on a pris une photo d'un mètre linéaire dans une boutique. Alors, en l'occurrence, c'était un Biocop. Et on lui a demandé, est-ce que tu trouves que c'est bien achalandé? Est-ce que tu trouves que les produits sont bien mis en valeur, etc.? Ça nous a fait ce petit visuel. Alors là, il faudrait le zoomer, hein, on est d'accord. Mais globalement, il a respecté les produits, il a respecté... ce qu'il faudrait faire, parce que ça, ce n'est pas la photo initiale. On aurait dû mettre la photo de base, en fait.
Initiale, ouais.
Mais bon, bref. Là, le truc, c'est que c'est très scolaire. Moi, c'était ma vue.
Mais en fait, ce que j'expliquais à Philippe, c'est que, pour le coup, comme je m'occupais de l'agencement des magasins, et la création et l'agencement de magasins auparavant, donc d'où le fait que je connais, j'ai la maîtrise du point de vente. Et donc, du coup, l'idée en se disant, si on est en magasin et qu'on devait aider des détaillants à améliorer leur merchandising, parce que dans les formations, à chaque fois, on essaie de voir tous les cas pratiques qu'ils peuvent avoir en boutique. Et donc, le planogramme, c'est ce qu'on a en général. C'est pas vraiment un plan merchandising, mais le planogramme permet de donner la situation des produits sur les étagères avec les meilleures ventes, les machins, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, ça, pour le coup, ce que moi, j'ai pu lui dicter, par contre, pour le planogramme, parce que là, c'est l'expérience de merchandiser que je lui ai donné. Moi, le résultat me convenait parce qu'un planogramme donne un peu les grandes indications. Et on a été un peu plus loin. Donc, c'est pour ça que Philippe, lui, était un peu déçu du résultat. Mais moi, à contrario, je trouvais que c'était hyper intéressant parce que je sais à quoi ressemble un planogramme qu'on donne pour nous en magasin. Donc, voilà, c'est bien et pas bien. Donc, on peut aller plus loin, ça, c'est sûr. Il a quand même bien respecté les packagings des produits, ce qui n'est pas toujours évident. Après, mon œil critique de merchandiser, j'aurais peut-être fait autrement. Donc voilà.
et dernier point, c'est sur. Vous avez vu passer des vidéos, surtout sur LinkedIn en fait. Il y a beaucoup de LinkedIn où il y a des publications de type automatise tes pubs avec Claude, remplace ton média buyer avec. Là, la photo qui est juste à droite, c'est celle d'un post qui a circulé il y a quelques temps d'une personne qui avait vu qui avait connecté son Facebook business. Merci, ouais. Voilà, et qui avait connecté ceci à Claude. Et en fait, Claude avait suroptimisé tellement que Meta Ads avait détecté l'usage abusif. Et donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Rideau pour le compte Meta Ads. Donc là, c'est impossible de le récupérer. Des années, je crois que ça faisait plus de 10 ans qu'il avait ce compte et qu'il faisait la... Bref, donc c'est ce qui n'a pas marché, c'est plutôt un conseil là, en l'occurrence, c'est ne pas faire une confiance aveugle à l'IA et lui laisser la main dessus.
Et l'IA n'est pas toujours la solution, c'est ce qu'on remarque, c'est pour ça qu'il faut tester.
D'accord. Alors justement, qu'est-ce qui marche là, Fabien? Tu nous disais que la création de contenu.
Je vais rebondir juste sur un truc que vient de dire Philippe. Et le dernier point, parce que je pense que c'est peut-être le plus important à retenir. En fait, moi, ça fait à peu près 25 ans que je fais de l'automatisation. Je ne vais pas vous faire la liste, mais c'est dans mon ADN. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'automatiser à 100%, ça n'a jamais marché avant l'IA. Il fallait toujours en fait automatiser jusqu'à 80 à 85%, pas plus. Et le reste, le faire à la main pour les cas marginaux et la qualité. Et je pense qu'il faut aussi faire ça en fait à l'ère de l'IA. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir du principe que l'IA va pouvoir vous remplacer pour n'importe quoi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, c'est-à-dire que l'humain reste encore là. Mais il faut toujours avoir la main à un moment donné, soit en entrée, soit en sortie. Enfin, soit au début, soit à la fin du process. Voilà. Alors pour moi, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, c'est un peu ce qu'on a déjà dit, hein, c'est tout ce qui est... Justement, publier n'importe comment en automatisant, etc. Et ce qui a marché, en fait, j'ai un exemple qui a marché sur un site qui est dédié aux métaux rares, donc or, argent, platine, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, y a des données qu'on peut récupérer assez facilement et gratuitement pour certaines. Par contre, la façon de les mettre en forme et de les synthétiser, elle n'est pas évidente. Et à chaque fois, je perds un temps fou à le mettre en forme. Donc un peu comme j'aurais pu développer un outil pour faire de la data viz, hein, c'est un petit peu à ça que ça revient. J'ai récupéré toutes ces données pour agréger plein de choses en temps réel, on va dire journalier quoi, avec des cours dans tous les sens, des comparateurs, des outils, etc. Donc au-delà du fait que c'était plutôt rigolo à faire, ça m'a pris, l'équivalent d'une dizaine de jours au temps plein parce que j'ai fait ça par étapes. Donc c'est quand même pas c'est pas instantané. Maintenant en 10 jours j'ai quelque chose qui est extrêmement robuste et qui couvre en fait toutes les questions auxquelles j'ai pu penser autour de ces sujets là. Le résultat il est on va dire assez simple, c'est que tout simplement j'ai récupéré à peu près 10 000 visiteurs par mois sur certaines pages. Alors les pages où j'ai récupéré du monde ne sont pas nécessairement celles où j'ai créé mes outils. Hein. Il faut être très clair. Par contre, en fait, ça a permis, je pense, de déclencher tout un tas de signaux navigateurs, de gens qui se baladent, qui aiment bien mon site, et Google comprend qu'en fait, mon site est apprécié. Des gens qui reviennent sur certaines pages, et des contenus typiquement liés à ça, qui remontent de façon très forte. Et c'est très durable. En fait, ça fait plusieurs mois que j'ai un trafic qui est stable, alors qu'en face, j'ai des acteurs qui sont là de façon historique depuis très longtemps. Et voir des acteurs énormes type, des médias financiers, voilà, des choses comme ça. Donc en fait, j'ai en face de moi des mastodontes et moi je suis une fourmi en fait à côté. Je ne fais pas 10 000 par mois, c'est quand même pas énorme en fait en termes de trafic. Je me dis que bon, c'est un exemple assez rigolo, un peu idiot parce que je n'ai pas de voie de monétisation derrière. Il faudrait que j'arrive à vendre en fait.
Des conseils en investissement.
Ouais, des conseils ou des commissions ou des choses comme ça. Bon, après, c'était juste un de mes 100 000 tests, mais le résultat est quand même très, très encourageant. Faut garder en tête quand même qu'il y a 10 jours de boulot, hein. Donc c'est pas un truc qui sort ensemble.
Alors on va essayer de finir, de rester, allez, même pas 10 minutes, on a un peu débordé. On voulait savoir quels sont les outils que vous utilisez. Moi j'en ai parlé tout à l'heure, hein. Claude, Gemini, Claude parce que avec Claude Cowork, je trouve que c'est bien. J'ai pas testé encore Codex là de ChatGPT, mais je trouve qu'il est vraiment simple à utiliser, même s'il faut vraiment prompter. Alors là c'est devenu compliqué, je trouve qu'il faut vraiment prompter clairement le truc et bien expliquer, alors qu'il n'y avait pas besoin. Gemini, pourquoi numéro 2? Parce que c'est celui qui est le plus open bar et que tu peux l'utiliser non-stop. Notebook LM, j'aime bien, comme vous, pour cette partie analyse de doc, mais je trouve que les résumés qu'il fait, il les fait pas très bien. Et quand tu dis fais-moi un truc de 6000 mots, il fera jamais 6000 mots, il est toujours limité en termes de recherche. Et si on veut vraiment l'utiliser pour des données perso, il faut passer vers la version pro qui conserve les données. J'aime bien DeepSeek pour la créativité. ChatGPT, pour moi, c'est le meilleur pour les images, vraiment de très, très loin. Et c'est un peu le tout-terrain. Grok, je l'aime bien pour la rédaction. Et Mistral pour les données françaises, qui est assez sympa. Alors, je vous laisse un petit peu dire quels étaient vos avis.
Ah ouais, moi, je plus soit Claude comme orchestrateur, hein, outil agentique. Enfin, franchement, soit sur Cowork ou Claude Code, ou même sur l'interface web. Très bien. Et Gemini, comme toi, pour les images et les vidéos, j'adore, franchement, pour illustrer mes miniatures YouTube. Mais comme tu l'as dit, effectivement, ChatGPT Image 2, c'est vraiment le meilleur maintenant. Pour faire les miniatures, j'utilise ça maintenant. Et Gemini, long contexte, vous en avez parlé, parce que c'est la brique qui est derrière notre book LM. C'est assez exceptionnel. Et puis, médaille de bronze pour un petit français. Toi, tu l'as mis en cinquième. Mistral pour la partie transcription audio. Moi, c'est top. Moi, j'adore. J'adore passer par Voxral, c'est très rapide et il y a très peu de choses à corriger. Voilà, de mon côté.
À tester alors. Manu, on
est plutôt raccord. Ouais. On a juste deux outils qui sont dans la troisième place, qui sont Nota et Canva, parce que ça fait partie de notre routine, en fait.
Voilà, oui, c'est plutôt dans notre quotidien. Maintenant, Nota est devenu aussi un outil. Ce qui est intéressant, toi, même ne serait-ce que quand tu vas à une réunion ou une conférence ou autre, bah, tu peux récupérer un max d'infos et c'est plutôt bien retranscrit. Si tu lui donnes les bons orateurs, il arrive à faire vraiment un truc sympa, même sur les ne serait-ce que traductions. Mais c'est vrai qu'après, ouais, bah, Google et Gemini, enfin, même Gemini, pardon, dont tu parlais, oui, nous, on aime bien aussi et on jongle entre les deux. Mais c'est vrai que les photos sont beaucoup plus quali maintenant avec
Alors, tu parlais de Canva IA, c'est vrai que moi j'utilise un tout petit peu pour faire enlever des fonds, trouver des styles identiques, mais l'IA je le trouve quand même moins performant. Vous utilisez pourquoi en fait?
Ah, écoute, alors entre la correction, rédaction, par exemple, toi, j'ai fait un test avec les calques. Alors là, des calques qui sont arrivés, ils ont maintenant Canva Code. Tu peux même mettre ton prompt pour créer ta propre presse. Et donc, un peu comme Gamma, en fait, tu vois. Et tu mets tes éléments et il peut te créer une presse. Alors, pareil, là, je trouve que c'est encore assez. Enfin, ça ne me suffit pas pour moi, parce que peut-être parce que j'ai l'habitude, on a nos templates. Là, on a. Un nouvel outil maintenant, ce qui peut paraître un peu con, mais quand tu as ton template qui est déjà fait, tu peux maintenant l'appliquer et changer sur une slide, ça change sur toutes les autres slides, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, il l'améliore régulièrement, Canva. Pour le coup, là, je fais assez régulièrement le contenu là-dessus, mais même en termes de texte ou image ou photo tout vidéo, les résultats sont bluffants. J'ai mis une photo d'un de mes fabricants d'ustensiles de cuisine. Il a animé, c'était une poêle notamment, il a animé la poêle avec les légumes dedans qui sautaient, exceptionnel.
Mais ça va être des modèles vidéo, soit de Gemini, soit des IA chinoises, Kling, à mon avis, derrière. Parce que ce n'est pas leur cœur de métier, Canva, de faire des IA.
Non, bien sûr.
Mais, ils avaient racheté Leonardo il y a quelques temps, qui était plus...
Ouais, ils ont racheté une autre solution qu'ils ont rachetée, j'ai perdu le nom, clairement. Mais voilà, je trouve qu'ils se sont bien améliorés. Et si tu ne veux pas cumuler différents outils, des fois, tu es contente d'être dedans. Et notamment les gens qu'on accompagne, qui ne vont pas aller sur tous les outils que nous, on utilise. On les forme aussi à l'IA. C'est intégré maintenant dans nos formations. Donc, quand tu leur dis que déjà dans Canva, il y a ça, ça simplifie vraiment pour cette cible-là. Il ne faut pas se mentir.
Ah, mais je suis d'accord avec toi parce que j'avais fait comme ça une mini-formation IA à des créatrices d'entreprises qui avaient des sites e-commerce, de boutiques et tout ça. Et quand je leur dis, pour les vidéos, tu peux utiliser Gemini, mais il faut aller dans Google AI Studio, il faut avoir un compte payant. Et là, tout de suite, tu dis, ouais, le résultat est sympa, tu as une musique, tu as un machin, mais ça devient tout de suite.
Même les vidéos, toi, Canva, ils ont amélioré aussi le système. Quoi. Puis je sais que toi, Frédéric et moi, on intervient aussi à Courbevoie pour les créateurs d'entreprises qui sont en incubation. Et c'est vrai que c'est cette cible-là aussi qui ne maîtrise pas tous les outils qu'on a. Quoi.
Tout à fait. Alors, Fabien, je crois que tu es à peu près le même classement.
Oui, à peu près. Alors moi, je rajouterais deux trucs un peu génériques. On va dire, quand on demande des choses à des modèles, on parlait tout à l'heure de modèles, il vaut mieux assez souvent demander des choses aux modèles frontières, c'est-à-dire les meilleurs en date. Ça coûte plus cher, pour plein de raisons. Néanmoins, il y a un gain de temps, ne serait-ce que sur la baisse du taux d'erreur. Donc, on se rattrape beaucoup là-dessus. Donc ça, c'est un truc un peu générique. Ensuite, moi j'utilise beaucoup ChatGPT pour rédiger et pour faire des images. comme vous avez compris, Claude aussi pour faire de la rédaction. Et puis en code, j'alterne en fait entre les différents modèles, sachant que Codex de chez ChatGPT est très bon, mais c'est une autre façon de coder en fait. Voilà. J'utilise en fait pour faire de la modification d'image Nano Banana qui est dans Gemini, que je trouve très bien. Il y en a un autre en fait que j'utilisais jusqu'à présent, mais je l'ai un peu mis de côté par flemme, qui fait la même chose, qui s'appelle Flux Context, qui est très très bien aussi pour faire de la modification d'image, et c'est moins cher.
D'accord.
Voilà. Alors je vais vous poser.
Mais de façon générale, de façon générale, je pense que l'idée c'est tous les modèles et Mistral y compris, hein, on va dire montent tous en qualité, et au bout d'un moment, ça devient un peu inutile finalement de faire la course à l'un ou à l'autre. Si vous avez des résultats qui sont pas mal, qui sont satisfaisants avec un modèle, je bouge plus en fait. Et c'est pas la peine d'aller chercher les voisins. Et si ça marche plus, à ce moment-là, je commence à regarder autre chose. Mais c'est tout.
Mais c'est vrai qu'on va peut-être arriver à la fin de l'inflation, il n'y en a pas besoin d'avoir des modèles encore plus performants. Alors, on va essayer de finir cette présentation après les derniers appels à l'action. Si vous deviez partir à zéro et si tu n'avais qu'une seule action à faire, allez, Jean-Baptiste, ça serait quoi? Alors, tu donnes tous influenceurs, ça y est, je vais me lancer.
Non, je l'ai dit tout à l'heure, moi je me suis reconverti, repartais à zéro sur un nouveau métier, formez-vous, et utilisez l'IA, les modèles frontières, comme disait Fabien, pour apprendre plus rapidement, mais il faut vraiment développer les compétences fondamentales. Et je dis ça d'autant plus pour les jeunes qui utilisent l'outil d'IA et n'ont pas acquis les compétences fondamentales, on les accueille dans les entreprises et c'est la cata. Et donc nous, on est prêts à les accueillir avec leurs limitations, à les faire grandir, etc. Mais faut passer par la case apprends un métier d'abord, voilà.
Ok. Alors Céline et Philippe.
Eh bien, alors moi pour le coup, j'ai dès que c'est sorti, tu sais, l'IA, je pense que c'était 2021-2022, un peu plus populaire. Je me suis formée et je referai la même chose. Donc je rejoins Jean-Baptiste. Et ce qui est important, c'est effectivement les compétences métiers du départ et que l'IA n'est qu'un outil supplémentaire pour nous aider dans notre métier. Et ça. L'expérience qu'on a, on ne peut pas nous l'enlever et ça, c'est vachement bien. Et peut-être un truc, c'est ne jamais penser que c'est acquis parce que là, tu vois, si je parle de 2022, ce qu'on faisait en formation, on a formé beaucoup d'entreprises à l'acculturation IA. Là, c'est plus encore la même chose. On a déjà adapté, on a revu les formations aussi pour que ça soit très spécifique au métier des gens, donc vraiment dans leur quotidien. Et c'est ça qui est important. Et donc, jamais penser que c'est acquis parce que là, je vois, toi, Philippe, a été un peu plus loin sur certains trucs. Je vois que je suis en décalage avec lui sur certaines choses, alors ce qui n'est pas grave en soi, entre nous, parce qu'on est complémentaires. Mais c'est toujours être en veille, regarder, se former et se réadapter. Et ceux qui me disent « Non, mais j'ai déjà suivi une formation. » Bah, ouais, mais moi aussi, je me forme tous les jours. Donc, en fait, voilà, c'est jamais acquis, en fait.
Et toi, Philippe?
Moi, c'est la structuration d'un projet, enfin, que ce soit dans ChatGPT ou dans Claude ou autre, l'usage des projets et le fait d'utiliser plus tôt la structuration avec des fichiers Markdown, par exemple. C'est d'être capable de mettre dans des fichiers sources de ce type-là tout ce que j'attends, tout ce que j'aimerais que ça soit, enfin, de donner les ressources à ces outils IA. Des informations un peu plus importantes pour qu'il aille un peu plus dans ma direction. Ça, c'était quelque chose qui existait déjà à l'époque, hein, même au lancement de ChatGPT. Alors, pas les projets ou les dossiers, mais le fait de lui donner des ressources en Markdown, c'est potentiellement si. Voilà, c'est le genre
de. Si tu veux partir à zéro, tu fais ça.
Exactement.
C'est ton côté structuré vierge. Ouais, c'est ça.
Et toi, Fabien?
Alors, moi, si je devais repartir de zéro, je partirais. Pas sur du contenu, mais sur du produit, c'est-à-dire en fait faire du e-commerce, faire des choses comme ça, peut-être même des formations d'ailleurs, mais parce que tout simplement, ça, ce ne sera pas chanté. C'est les gagnants du game de l'IA. L'IA synthétise de l'info, mais par contre, y a quand même un moment où il faut passer à l'action. Donc ça, ce serait ce que je ferais. Et s'il y a une action en fait que je suggère de faire aujourd'hui, je suis en train de le faire moi-même, c'est de prendre en main les outils type agentique pour essayer de soit simplifier certaines tâches, soit s'augmenter au-delà de « je pose une question à ChatGPT et je récupère la réponse ». Ça peut être… Tu t'as parlé beaucoup assez fréquemment là, de ton assistante, Fred, à qui tu donnes des tâches. Bah, ces tâches-là, elles peuvent être intégrées dans un processus agentique, en fait. Alors, c'est triste pour ta collaboratrice, mais… Tu pourrais potentiellement t'en passer. Donc, voilà. Et je pense que c'est une voie importante qui va faire la différence entre les gens qui vont être performants ou recrutés ou tout simplement efficaces tout seuls Et puis ceux qui vont rester sur le carreau, soit parce que connaissent pas l'IA, soit ils sont pas capables de mettre en place ces systèmes agentiques.
Ok. Alors, si on peut en savoir plus, je vous propose de passer un petit peu à l'action. Alors justement, toi, mon cher Jean-Baptiste, tu as écrit ton bouquin, co-écrit ton bouquin d'ailleurs.
Ouais. Ouais, passer à l'action, il faut communiquer sur les réseaux sociaux. Et donc, le livre co-créateur vous apprend à prendre la parole sur YouTube, TikTok, Instagram, avec l'aide de l'IA. Donc, l'IA comme un compagnon, mais l'humain reste important. Donc, prenez-le. Voilà, il s'est bien vendu, il continue à se vendre. Il faut le lire pour passer à l'action. Voilà. Et donc, si vous voulez un compagnon en plus du livre, il y a la chaîne YouTube où toutes les semaines, je publie un tuto sur un outil d'IA, le dernier en date étant... comment on a réalisé cette présentation PowerPoint en grande partie avec Cloud Design. Voilà.
Wow. Ouais, tu as épuisé tes tokens en
2 heures.
Même, ça y est.
Alors,
et pour vous, si on veut savoir plus sur Céline, sur Philippe et sur Fabien, bah, Céline et Philippe, je vous en prie, dites-nous quelques moufs.
Oui, parce que là, en fait, on se rend compte une formation continue et hormis celle que l'on a habituellement sur Insta, sur Reddit, sur Canva et Google Business Profile, on voit qu'il y a de plus en plus un retour à des formations réelles, virtuelles, mais en situation. Et donc là, on aimerait bien, c'est pas nouveau, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a déjà vu un peu à droite, à gauche aussi, mais c'est prendre un groupe de personnes et leur apprendre à monter une vidéo sur le live, dans une boutique, dans une coiffure, enfin bref.
En gros, c'est de l'application terrain, en fait. Ouais. On nous le redemande de plus en plus. Exactement. Et en fait, au-delà de la formation, même en présentiel, c'est de leur faire faire les choses directement dans leur contexte, dans leur univers.
C'est ça.
Donc là, on est en train de plus en plus les développer et de voir avec qui est intéressé par rapport à un écosystème. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et après, en parallèle, donc là, moi, ma grosse actu, mais tu l'as vu, Frédéric, parce que j'ai vu que tu avais liké, la Confédération des Arts de la Table, donc à son colloque annuel lundi prochain, un contenu très dense. On va parler autant de géopolitique, des dark factories, où là, il y a bien de l'IA, notamment, mais de la neuroscience également, des nouveaux canaux de distribution et comment ils impactent aussi finalement l'achat du consommateur avec des personnalités publiques aussi qui seront présentes.
Et toi, Fabien ? Philippe,
la grosse actu, c'est surtout Vivatech la semaine prochaine
aussi,
où on va y être un petit peu impliqué.
Événement.
Et puis un événement avec InWink où on réunit nos clients. Ce sera le 23 juin sur Paris. On sera pas loin de 80. On va parler surtout d'événementiel, marketing digital et comme événementiel.
D'accord. Et toi, mon cher Fabien ?
Alors du coup, moi, je bosse sur plein d'outils internes, que ce soit pour moi ou pour des clients. Donc du coup, après, je suis toujours intéressé si des gens ont des besoins pour développer ça, pour les aider, pour les accompagner. Parce qu'ils peuvent faire des choses tout seuls, mais un truc robuste, c'est un peu plus compliqué. Et j'ai deux outils, en fait, qui seront bientôt commercialisés. Un premier, en fait, qui permet d'intégrer un lecteur audio sur tous vos contenus, écrit. Alors, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Il y a plein de choses qui existent, sauf que ma solution, elle coûte zéro. Elle coûte quasiment rien. On va dire, si on a du volume, ça peut faire la différence. Tout en étant très quali. Et j'ai un deuxième outil, en fait, un peu plus sérieux, un peu plus technique, qui sera bientôt commercialisé et qui permet de comprendre de façon avancée et surtout avec actionnable comment les différents robots analysent un site. Ce qui est très intéressant pour savoir finalement qu'est-ce que Google, qu'est-ce que ChatGPT, qu'est-ce que Claude aime de votre site, qu'est-ce qu'il n'aime pas, où est-ce qu'il revient, où est-ce qu'il ne revient pas, etc. Donc c'est un peu plus technique, mais finalement c'est probablement la seule source en fait fiable pour réorienter la stratégie de visibilité dans les IA.
Voilà. Okay. Bon, merci pour vos petits conseils et astuces. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, les webinaires de Numericissimo vont se poursuivre. On s'est vu déjà sur la souveraineté numérique. Tu as parlé de Mistral tout à l'heure. On a parlé très, très longuement avec nos experts, Jamespot, BPCE, etc., etc. On s'est fait un petit webinaire sur les algorithmes là avec Émilie Marquois. Et bien sûr, on se revoit bientôt sur le droit numérique. On en a parlé tout à l'heure, la cybersécurité et l'agentique. Et si vous voulez rejoindre l'annuaire numérique Issimo, c'est ceux qui font avancer le web en France, influenceurs, CEO, start-up, etc. Bah, il suffit de vous inscrire. Vous allez sur numériqueissimo.fr qui a été intégralement conçu en vibe coding par Hervé Cabla. Et vous pouvez déposer votre fiche et ainsi gagner en visibilité. Voilà, bah, merci à tous. On a dépassé d'un bon quart d'heure le timing. Merci d'être resté à tous ce samedi. Merci à nos experts. Et puis on se rend dans